Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Et bonsoir à tous et bienvenue sur ce 278e Comics Weekly, avec au programme ce soir du Secret Wars notamment, puisque s'agit de la sortie du dernier numéro. Et puis nous parlerons aussi bien sûr d'Indé et de DC, avec au programme d'Indé Back to the Future ou encore le 150e Walking Dead. Et puis chez DC, la nouvelle série Green Lantern Corps Edge of Oblivion, mais aussi Superman American Alien ou Batman Tortue Ninja. Et puis bien sûr, vous retrouverez à chaque partie les TPB. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Bonsoir à tous et bienvenue donc sur ce 278e Comics Weekly. Avec moi pour vous parler des sorties de la semaine, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Et Mister en Ebony.
Oui. Bonsoir à toutes et à tous également, de même.
Désolé pour tous les auditeurs en direct, un énorme cafouillage, il a fallu s'y relancer à 3 fois, je me suis planté dans la façon de lancer les jingles, ce qui fait que j'ai fait mon intro à l'arrache, sans retour, je sais pas si j'ai parlé sur la ZIC ou pas, j'en sais rien. Bref, c'est du n'importe quoi, comme cette émission, qui démarre bien sûr par Secret Wars, donc c'est du n'importe quoi.
Ah, on commence par le meilleur.
Ah, on y va. L'avenir va nous le dire, en tout cas, bien sûr, hein, du Marvel, du DC, de l'Indé, je l'ai dit en intro, je le répète au cas où ça s'est pas entendu, parce que... J'ai absolument aucun retour, je ne sais pas ce qui a été dit ou pas. Donc, Mister René Bunny, on va pas prendre plus de temps que ça. Fais-nous ton WhatsApp.
Exactement.
Non, tu vas nous parler bien sûr du 9e et dernier épisode de Secret Wars.
Ouais, Secret Wars qui se clôture enfin en janvier 2016, avec ce numéro 9 impromptu, puisque de toute façon il n'était pas prévu à la base. Je rappelle que la série devait être en 8, hein, me semble-t-il.
Ouais, tout à fait.
Donc c'est ce fameux numéro tant attendu, ce fameux numéro bonus qui n'en est peut-être pas vraiment un.
Bonus, oui et non, puisqu'à la base, ils devaient faire un 8e épisode double.
Oui, c'est ça.
Finalement, ils ont décidé de couper en deux parce qu'il faut faire marcher la cash machine. Ouais. C'est quand même mieux deux épisodes à 4$ qu'un seul épisode à 5 ou 6. Ça rapporte plus d'argent.
Donc Jonathan Hickman est au scénario et Sandry Beach est au dessin. Alors pour ce qui est des dessins, ça reste sympa, même si par rapport à tout ce retard, il y a vraiment des pages sur lesquelles je me dis il était un petit peu dans le jus et ça se sent quand même. Enfin, ça s'est senti dans la deuxième partie de la saga, quoi. Il y a des visages sur certaines pages qui me font penser à du LaRocca. Pareil, toujours des passages avec des décors, enfin sans décor quoi, voilà, sur des aplats de couleurs, des combats sur des aplats de couleurs. C'est un petit peu dommage, mais bon. Cela dit, il y a des pages aussi très réussies, donc voilà, c'est variable. Pour ce qui est du scénario, Jonathan Hickman conclut son histoire d'une manière logique, mais en même temps forcément un petit peu prévisible, dans le sens où comme on a vu l'après Secret Wars, on savait déjà quel personnage allait être concerné par la fin de cet event. Donc sans surprise, c'est pas du spoil, hein, les Fantastiques sont concernés grandement, par la fin de Secret Wars. On voit un petit peu le sort qui leur est réservé, notamment.
Not... Bon alors apparemment, Bunny a une déco, c'est génial. Ou alors il joue, le spoil. Notamment.
Notamment le.
La censure a eu Mister René Bunny. Vous en rêviez.
De ouf, quoi.
Vous en rêviez, Mister René Bunny muet.
En fait, il est en train de faire une pause dramatique, tu sais. Il va revenir.
Putain, la pause dramatique qui dure trois plombes, quoi.
Ouais, c'est génial, j'adore.
Donc on est pendu au lèvre de Mister René Bunny. Non, on attend. Non, effectivement, hein, Mister René Bunny a été déco, il va revenir très très bientôt, j'imagine. C'est l'émission de l'enfer. D'ailleurs, au passage, on va en profiter, puisque Bunny vient de s'éteindre, parlons de celui qui s'est éteint aujourd'hui.
Oh mince, là, je suis en train de rigoler. Non, c'est triste.
Oui, non, mais enfin voilà, c'est un petit peu les émissions de l'enfer. J'ai l'impression qu'à chaque émission, il y a
évidemment, on voit... Pardon ?
Oh putain ! Alors, non mais en fait, je sais pas, toi t'as dû continuer.
Oui.
Mais t'as été déco. T'as été déco depuis 2 minutes.
Merde.
Alors, les 4 fantastiques, leur sort notamment, et là, silence. Et on s'est dit qu'au début, tu jouais la censure, tu jouais le fait de pas le dire. Mais non,
mais en fait, 2 minutes, sans déconner, que je suis déconnecté.
Oui, ça fait.
Ça fait 2 minutes que tu parles tout seul.
Ouais, merde, alors.
Quand tu as parlé des 4 fantastiques, tu as dit notamment et ça s'est arrêté là, quoi. Notamment.
Merde.
Je te jure, il faudra que tu réécoutes le truc. C'était absolument génial.
C'est dingue. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 minutes? C'est un truc de fou. C'est un truc de fantastique fort.
On allait commencer à parler d'Alan Rickman.
On allait faire un petit hommage, enfin hommage, si on peut dire comme ça. En tout cas, mentionner le décès d'Alan Rickman.
Disparition. Ouais.
Et non pas de Jonathan Hickman.
Et comme je disais juste au moment où tu revenais, c'est que j'ai quand même l'impression qu'à chaque émission, on annonce un décès, quoi. Donc 2016 commence vraiment vraiment très 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 mal.
Eh, il serait de bon temps qu'on annonce plutôt un Marvel.
Oh.
D'ailleurs, revenons à Marvel.
Alors notamment.
Alors,
notamment.
Je vais reprendre.
Le sort des 4 fantastiques, notamment.
Notamment de Red et Sue, la famille Richards et puis quelques-uns de leurs disciples, de leurs proches, face à Dr Doom. Alors on pouvait se douter, vu qu'on avait déjà vu le payoff de Secret Wars, que le sort qui leur était réservé allait nous être révélé dans ce dernier numéro. C'est le cas, voilà, en long, en large et en travers. Je vais pas révéler les tenants, les aboutissants de tout ça, mais on va comprendre que peut-être on les reverra un jour, dans des circonstances un petit peu différentes. Il y avait moins de surprises à la lecture de ce dernier numéro, dans le sens où, comme on a déjà vu l'après Secret Wars, on savait déjà, on pouvait déjà deviner que ça allait tourner pas mal autour du sort réservé à la famille Richards, hormis Ben Grimm et Johnny Storm, hein, puisque eux, on sait déjà ce qu'ils deviennent dans ce nouvel univers Marvel. Et puis aussi, je disais, rappelez-vous, on s'était quitté avec T'Challa et son gant de l'infini, ainsi que Namor face à Dr Doom, donc on voit aussi ce qui se passe avec cette confrontation assez musclée. Il y a pas mal de petits retournements de situation, pas mal de coups de poignard dans le dos dans ce dernier épisode. Voilà. Est-ce que j'avais parlé de l'aspect graphique? Est-ce que vous m'aviez
oui,
entendu
si,
là-dessus?
Oui, ça c'est bon, on t'avait entendu.
D'accord.
Et je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je trouve que Ribitch fait vraiment du très bon boulot. Et peut-être qu'effectivement, c'est un peu moins beau qu'au tout début. Mais au final, on a quand même une continuité sur tout un event avec un artiste qui nous sort de magnifiques planches.
Certains visages, pour moi, c'est du Larocca, quoi. Du Larocca, pas forcément des bons jours. Et puis un manque de décor, quand même, pas mal.
Il y a cette planche magnifique, là, ce composite, cette mosaïque entre Doom et Reed qui est.
Il y a des planches très bien.
Fantastique,
hein,
la part d'Hickman, avec en plus les bulles de narration qui sont placées justement dans cette mosaïque. La page est sublime. Il y a des scènes vraiment très épiques. Le combat entre justement Doom et T'Challa est assez stylé. Ça, on voit, c'est vrament cool, quoi. Ça donne envie de voir ce qui ça sur grand écran presque. Et puis voilà, après, moi, ce que j'ai aimé dans cet event, c'est qu'on On pensait partir sur de l'épique, du grandiloquent, et en fait on retourne sur de l'intimiste avec la conclusion du run d'Hickman à la fois sur les 4 Fantastiques et sur les Avengers, avec pour moi je trouve un payoff qui vaut vraiment le coup. Et en fait un épilogue assez long, mais qui amène plein d'infos, plein de choses intéressantes et de concepts qui pourront être développés par la suite par d'autres auteurs s'ils ont envie de s'amuser avec ce que leur laisse Hickman comme joujou. Et il y a du potentiel pour ces personnages. J'ai beaucoup aimé. On comprend. En fait, il y a pas mal de choses qu'on comprend mieux aussi par rapport au relaunch. Alors, il y avait des choses effectivement qui nous avaient été spoilées, mais il y avait par exemple l'importance de T'Challa dans le nouvel univers Marvel que je trouvais un peu étonnante. Elle est totalement expliquée dans ce comics.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la boucle.
Et j'ai trouvé ça super malin, ouais.
La
Et
boucle.
avec une boucle effectivement avec le premier numéro de New Avengers qui est assez intéressante.
Les gars, je vais paraître peut-être totalement noob, mais l'importance de T'Challa dans l'univers Marvel? Il est
Bah,
où?
dans le nouvel univers Marvel, en fait, il est.
Ah ouais,
Ah, je sais
parce que
pas, c'est
là,
Bruno. Non, mais c'est pas moi, c'est pas moi. Hein. M'inclus pas dedans. Là, c'est Bruno qui est parti dans ses.
Ah non, c'est pas
Mais je ne dis pas que c'est pas le cas, vu que j'ai quand même drastiquement réduit mes lectures Marvel, que je ne lis plus
Non,
aucun
mais
gros
je ne sais
titre,
pas non plus.
je refuse de lire
Actuellement,
les Avengers, etc., parce que ça me saoule.
le Wakanda est la nation la plus avancée technologiquement. C'est
Ah
elle
bon?
qui dirige l'espace.
Ouais,
C'est elle
c'est pas
qui
nouveau ça.
contrôle la station spatiale qui gère les menaces extérieures.
Le
Et
Wakanda, Wakanda.
c'est lui qui dirige les Ultimates et qui, auprès du gouvernement mondial, est peut-être la sommité à qui il faut absolument demander l'autorisation avant d'intervenir. Donc il a pris un rôle prépondérant dans l'univers Marvel et c'est assez bien expliqué pourquoi et comment il s'y est pris dans ce Secret Wars 9.
D'accord, non mais c'est marrant parce que ça transparaît pas des masses, je trouve, dans le reste des titres. En tout cas, j'en ai quand même lu quelques-uns et j'ai pas l'impression de l'avoir vu, Black
Ouais,
Panther.
pareil, pareil, pareil. Honnêtement, par rapport à la menace, à la prépondérance des inhumains, tu vois, c'est pas T'Challa dont on entend le plus parler dans ce
Mais
nouvel
c'est des
univers.
titres que
Moi,
vous
j'ai
avez
quand même
pas
l'impression
lus.
de voir Steve Rogers un peu partout, mais voilà.
Non, mais T'Challa a une importance assez importante sur le plan géopolitique dans l'univers Marvel post-Secret Wars. Et voilà. Et moi, je trouve que ça fait vraiment une belle fin pour ce run d'Hickman. Après ces très bons Fantastic Four, après ces superbes Avengers, il termine avec un event qui, pour moi, est le meilleur event
Ah
qu'a pu
ouais,
faire Marvel
depuis de tous les temps.
de tous les temps. Non,
Voilà.
franchement, j'ai
Mais
vraiment kiffé. Pour moi, c'est du niveau d'un Crisis on Infinite Earth au niveau qualité. Donc,
allez, allez.
voilà. Bah putain, comme
Allons-y.
t'y vas,
Mais
espèce de
après
sale
voilà,
fanboy.
c'est les goûts et les couleurs, mais moi, j'ai vraiment kiffé du début à la fin.
Moi, je trouve vraiment dommageable quand même que on ait eu la suite avant la fin de
Ah, tu...
Secret Wars.
On te demande de te calmer sur le chat, hein.
Ouais, non mais c'est déjà
Après,
c'était ma
je vais pas
review,
bouder mon
j'étais
plaisir, je vais pas bouder mon
censuré pendant
engouement.
2 minutes, et puis finalement c'est Bruno qui a fait plus la review que moi déjà. Mais très sérieusement, par exemple le petit twist final, il aurait été quand même bien plus intéressant de voir ça, de le découvrir dans les pages de Secret Wars, plutôt que de le voir spoiler finalement dans le All New Marvel Now.
Alors, je ne sais pas comment se décompose ce numéro, mais sincèrement, vu le retard, peut-être qu'il aurait été pas mal de donner quelques clés sur ce qui s'est passé pendant ces 8 mois dans ce numéro, quoi.
Il y a deux, trois indices qui sont posés,
Ouais,
pas sur les
léger,
événements.
Je parle
léger.
pas d'indices, je parle de révéler ce qui
Franchement,
s'est passé.
ce dernier numéro, ça peut être résumé en un épisode, un final pour les quatre fantastiques. Enfin, pour les deux fantastiques. Les deux fantastiques que l'on ne voit plus dans le All New Marvel Now.
Non, puis ça
Voilà.
pose les jalons de comment on en est revenu à l'univers qu'on a actuellement. Enfin, ça.
Ouais. Bah d'ailleurs, de toute façon, la page finale, on peut le dire, puisque c'est même pas un spoiler, puisqu'on le sait depuis des mois maintenant, enfin depuis des semaines en tout cas. On te révèle que le Docteur Doom a un visage normal. Et voilà, ça aurait été quand même plus sympa de découvrir cette dernière page, tu vois, d'une manière totalement neutre, totalement nouvelle, il y a quelques semaines, plutôt que de savoir déjà que. Enfin, là, on sentait que ça allait arriver, quoi, ce passage-là. C'était le
Ouais, mais
passage obligé.
c'est pas ce que j'ai retenu du coup, justement, parce que comme ça, on le
Non, mais il
savait
y a plein de
déjà.
petits trucs comme ça qui auraient été plus sympas à découvrir avant.
J'ai trouvé que d'un point de vue dialogue, d'un point de vue confrontation, cette bataille finale était dantesque, c'est-à-dire que c'était pas de la baston, c'était du dialogue entre
beaucoup de branlettes intellectuelles comme fait Hickman durant tout son run sur les Avengers.
Et j'ai adoré justement comment ça se termine et
avec des hamburgers.
J'ai aimé que Doom concède quelque chose et que ça se retourne contre lui. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Pour moi, c'est vraiment c'était le point culminant de ce comics. Et après, ce qui se passe par la suite, ça, je trouve en plus ça ouvre énormément de possibilités, de choses qui, là, on ne sait pas comment ça va être utilisé par la suite. Mais en tout cas, franchement, il leur donne un terreau super intéressant pour pouvoir réutiliser les rides des sous par la suite. Et c'est vraiment super intéressant, quoi.
Ouais, vont-ils les utiliser, justement ?
Hickman qui pense aux autres en ayant détruit l'univers, c'est sympa.
Bah justement, en fait, je veux pas en dire trop parce que là, ce serait vraiment les dernières pages, mais c'est tout sauf de la destruction, quoi.
On te demande, Benny, sur le chat, si tu es malade un peu parce qu'on trouve que tu as une voix un peu bizarre ce soir.
Ah non, du tout. Mais c'est peut-être ma voix est peut-être modifiée par la connexion, je ne sais pas. J'espère que.
Et surtout, j'espère qu'il n'y aura pas de problème comme lundi avec du décalage, etc. Parce que voilà, c'est juste assez horrible.
Non, je ne suis pas malade. Enfin, pas que je sache. Voilà.
Mais c'est vrai que vous avez un peu l'impression que tu as le nez pris ce soir, mais moi aussi j'ai un peu cette impression.
Peut-être. Enfin, je sais pas, je me rends pas compte.
Quick question pour Bruno. Qu'as-tu pensé de Uncanny X-Men 1, si tu as eu le temps de le rattraper?
je l'ai lu, je l'ai trouvé passable.
Voilà. On ne détaillera pas plus. Hein. C'était non, juste parce qu'on demandait ton avis sur le chat, donc... C'est fait. Allez, avez-vous quelque chose à rajouter sur ce Secret Wars numéro 9, hormis la note évidemment, afin qu'on avance un petit peu sur le programme, parce qu'on a un long programme Marvel.
Plus, pour l'instant, rien de plus.
Rien de plus, Benny ?
Non, rien.
Alors, vos notes, s'il vous plaît.
Bah, pour Bruno, je pense que ça va être un absolute buy.
Bah oui.
Son coup de cœur de la semaine.
Son coup de cœur de la semaine.
Et son coup de cœur de l'année 2016.
Pour l'instant,
pour moi. Pour moi, ça va être un gros check-it, voilà, pour sanctionner ce retard. Je trouve ça vraiment dommageable qu'on n'ait pas eu cette histoire avant le lancement des All New Marvel Now.
Eh bien, justement, ce All New All Different Marvel Now, eh bien, c'est Bruno qui va continuer avec le All New All Different Avengers numéro 3. Putain, arrêtez avec ces titres à rallonge. Et Anada, c'est un titre de merde. Donc, voilà.
Ouais, All New All Different Avengers, le titre Avengers que je trouvais le plus faible dans ce relaunch. Donc c'est pourtant Mark Waid qui s'occupe du scénario avec des dessins d'Andy Kubert.
Ouais, il cache tonne pour payer ses impôts, c'est tout. Ou pour financer sa boîte Trillbent.
Ouais, pour le coup, en plus, je trouve que Kubert n'était pas super bon non plus sur le titre. Donc ça faisait beaucoup. On partait en plus sur une intervention d'Eshitori et sur une sorte de lien avec la série Nova, pour lequel j'ai pas non plus un grand amour en pré-Secret Wars, puisqu'on retrouvait un méchant qu'on avait pu voir dans Nova. Là, ce numéro 3, en fait, c'est vraiment pour conclure ce premier arc, amener une menace que j'ai trouvée un peu plus intéressante, et puis surtout, voilà, constituer une équipe. Donc, en l'état, le numéro 3, je l'ai trouvé quand même plus sympa à lire que le numéro 2. Ça va un peu plus vite, il y a un peu plus d'action, il y a quelques scènes d'humour et puis surtout il y a quelques infos intéressantes pour le futur. Mais voilà, pour un titre Avenger, je trouve que c'est dommage. Ça mériterait mieux. Ça mériterait mieux que ce soit dans le scénar et dans les dessins. N'est pas Hickman qui veut. Donc pour moi c'est un check-it. C'est All New All Different Avengers 3.
Putain, on n'a pas perdu de temps là-dessus. Tu passes à une autre série. Bruno ne lit plus que du Marvel, hein, de toute façon. Donc, voilà. le fanboy, quoi. Tu passes à cette série dérivée d'une série télé qu'on avait bien besoin de voir arriver dans l'univers Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D.
Alors, Agents of S.H.I.E.L.D., c'est écrit par Mark Guggenheim avec Peralta au dessin. Et alors, effectivement, c'est marqué sur la couverture, inspiré par la série télé. Mais ce comics prend quand même pour base l'univers comics, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas les personnages tels qu'ils sont caractérisés exactement dans la série télé. Je pense par exemple aux deux scientifiques qui font partie de l'équipe, leur relation est complètement différente. Et puis on a surtout un agent Coulson beaucoup plus badass et qui rencontre et qui connaît bien mieux les super-héros que dans la série télé. Un numéro vraiment super plaisant à lire. C'était très très bien foutu. Guggenheim amène plein de pistes dans ce numéro. On va découvrir une grosse machination qui concerne justement le département de la défense et les États-Unis qui ont l'air de cacher des choses au Shield. Et finalement, c'est super bien amené. Il y a des personnages qui ont très rapidement, dès le premier numéro, des gros soucis. On sent que, il y a peut-être des persos qui vont crever assez vite. C'est amené en plus de façon assez, assez fine. Le personnage de Coulson est assez badass. Ils en font une sorte de James Bond un peu séducteur qui. Ça marche bien. Ça marche bien. Et d'un point de vue graphique, en plus, j'ai trouvé ça très honnête. Voilà, effectivement, ça peut faire peur parce que c'est le comics inspiré d'une série télé qui était elle-même inspirée d'un comics. Mais au final, il y a des petites pistes et des petits liens avec ce qui se passe dans Invincible Iron Man en ce moment. Il y a peut-être des liens avec la future Civil War, avec le futur crossover un petit peu Avengers qu'on va avoir, Pleasantville, je sais plus comment c'est.
Oh mon Dieu, ils ont fait des liens, ils ont fait un boulot d'univers partagé, faut les féliciter. Oh
Donc voilà, donc pour moi j'ai trouvé ça pas mal.
Oh
Donc pour moi c'est un petit bail d'encouragement pour ce numéro 1,
Ah,
d'une
les
équipe
encouragements.
intéressante à suivre.
Tableau d'honneur.
C'est quand même leur travail quoi de faire des liens quand c'est un putain d'univers partagé.
Ils
C'est
le
quand
font
même.
bien.
Voilà, non, ça donne l'impression que tu les félicites, genre c'est le truc du siècle, mais je trouve que c'est juste le boulot de base, quoi.
Ouais, non, je suis d'accord, mais il y a d'autres sociétés qui ne font pas trop ça en ce moment, je trouve.
D'autres sociétés qui ne font pas trop ça.
Petite question,
Pourquoi ils s'embarquent?
de la part de Gré Pigeon, qui n'est pas une question ironique, hein, vraiment il demande pour savoir s'il y a des gens qui ont pris ce titre dans ta boutique.
J'ai quelques abonnés en fait qui étaient déjà abonnés sur la série Shield
Parce qu'ils
de
se
Mark
sont
Waid,
gourés, voilà, ils ont cru que c'était un
qui ont
spin-off
voulu
à
continuer.
Shield.
Et il se trouve aussi que j'ai quelques clients qui aiment beaucoup la série télé et qui ont envie de découvrir un comics dans la continuité comics, mais avec les persos qu'ils aiment bien dans la série.
Ah mais justement, oui, voilà, c'est je pense vraiment pour savoir ça, si cet aspect nouveau lecteur marche.
J'ai moins d'abonnés que sur, je sais pas, les Extraordinaires X-Men, ça c'est sûr.
C'est étonnant.
L'ordre des choses est respecté un minimum, c'est déjà bien. On va continuer avec Black Knight numéro 3. Je suis le seul à lire cette série, je crois que vous avez même pas testé en
Ouais,
fait.
bon.
C'est pas grave,
Salut.
hein. Frank Thierry et Luca Pizzari et Kay Walker. Enfin, Frank Thierry au scénario, pardon. Luca Pizzari et Kay Walker sont au dessin. Avec ce troisième épisode qui est toujours l'arc Dark Knight. Parce que Black Knight, Dark Knight, on a été chercher loin au niveau du titre.
Ah oui.
on en apprend encore un peu plus sur le passé et sur le fait que. Dwayne Whitman, donc le Black Knight, est complètement basculé dans la folie, soit passé du côté des vilains, qu'il soit recherché par les Uncanny Avengers, qui ont débarqué hein, dans cette dimension du Weird World, rebaptisé Avalon pour l'occasion, et est décidé de venir chercher le Black Knight pour le ramener et le juger, et lui péter la gueule s'il n'y a pas d'autre solution. Et malheureusement, il n'y aura pas d'autre solution. Monsieur est complètement contrôlé par son épée. Et justement, on a plusieurs timelines dans les flashbacks. On a deux timelines différents. En fait, on a la timeline de à peu près un mois auparavant, juste avant cette histoire, c'est-à-dire quelles alliances il a fait, le Black Knight, dans ce Weird World, comment il a unifié en quelque sorte les peuples, les différents peuples de ce Weird World. Et puis auparavant, avant qu'il arrive dans cette dimension, comment il a pété les plombs et comment les Uncanny Avengers ont dû se mettre à sa poursuite et aller le chercher. Ça finit avec un cliffhanger qui est plutôt sympathique. C'est une série que j'aime bien en fait. C'est pas une série qui va révolutionner le monde du comics, qui va révolutionner Marvel. Elle a l'air d'être plutôt dans son petit coin, pour le moment en tout cas. C'est plutôt sympa. J'attends d'en voir plus. Je vais aller jusqu'à la fin de l'arc. J'ai bien peur cependant qu'à la fin de l'arc, il retrouve ses esprits et qu'on parte sur de nouvelles aventures. Je pense pas que la série puisse continuer comme ça éternellement. Cependant, ça fait son job, c'est sympathique, c'est divertissant. Les dessins sont pas désagréables. Voilà, hein, je vais pas m'éterniser 150 ans dessus sur une petite série comme ça. C'est sympa, je passe un bon moment. Donc pour moi, c'est un bon petit check-it, tendance buy, quoi, un check-it plus, on va dire. Bruno, tu vas continuer, encore toi. Il n'y a que toi qui lis du Marvel. T'achètes toutes les covers, c'est pour ça qu'ils font des gros scores. Guardians of the Galaxy numéro 5. Ouais, je te trash numéro... dès que je peux, tu vois. T'es...
Mais ouais, mais c'est gratuit, c'est gratuit.
Je continue.
Profites-en, il y a tellement peu de choses.
Je me suis trompé, en plus j'ai marqué le 5 alors que c'est le 4 qui sortait cette semaine.
C'est, Guardians of the Galaxy numéro 4, Bruno, vas-y. Ouais.
Le numéro 4. Donc on a toujours cette menace qui est donc Ala, une survivante de, justement, qui essaye de détruire l'équipage des Gardiens de la Galaxie qu'elle considère comme étant responsable de la destruction de sa planète. Dans ce numéro, en fait, ils vont essayer de trouver un moyen de la contrecarrer parce qu'elle est très très puissante. Et finalement, ça va. C'est peut-être en faisant les choses les plus simples qu'ils vont réussir à la combattre. C'est pas mal. Ça se laisse lire, mais c'est pas renversant. C'est du Bendis.
On voit que c'est du Bendis, hein, parce que ça fait 5 numéros que tu nous fais la review et 5 numéros que c'est la même histoire.
C'est un peu toujours la même chose, effectivement.
Non, ça fait pas 5, ça fait 4. C'est Bruno qui s'était trompé.
C'était le 4ème.
On vient de le dire, le mec a pas écouté en plus.
Mais je vois marquer 5, donc je me dis, l'erreur est où, finalement?
Ce qui est marrant, c'est qu'on enchaîne deux menaces, c'est-à-dire qu'on avait cette menace depuis les trois premiers numéros, et là il y en a une deuxième qui se rajoute, qui a l'air encore plus forte, qui arrive pour conclure cet arc, parce que je pense que ça va se terminer dans le numéro 5. C'est dans la continuité de ce qu'il faisait avant. Si vous aimiez pas avant, ça va. Il y a toujours pas de fond, quoi. C'est assez superficiel. Par contre, c'est du comics popcorn. Comme une bonne série B qu'on pourrait regarder à la télé. C'est dommage pour les gardiens, ça mériterait mieux, je pense, effectivement. Mais voilà, c'est du comics popcorn bien, bien fichu, un check-it, quoi.
C'est les gardiens détruits par Bendis, quoi. C'est-à-dire cette version pré-mâchée, pré-digérée, tout de suite prête à chier, quoi.
Il y a des moments où on rigole bien, il y a des moments où on trouve que c'est assez badass, il y a un peu d'inventivité dans le combat, mais ça mériterait mieux, quoi. C'est tout.
Mais je dirais pas que Bendis fait du comics popcorn, je dirais qu'il fait au contraire de la sitcom. C'est toujours des gens qui se rencontrent au détour d'un vaisseau ou n'importe où d'ailleurs, mais c'est toujours des rencontres et de gens qui discutent. Et puis après, qui se barrent et qui rencontrent d'autres personnes.
Il y a un peu plus d'action quand même. Il y a effectivement une partie discussion et après une partie action, mais voilà.
Bon. Eh bien, on va passer à...
Eh bien, oui, on continue avec une review de Bunny. Ouais, c'est plus Bruno. On a fini le blog Bruno. Une review de Bunny, All New Wolverine, numéro 4.
Oui, série que je suis encore chez Marvel avec Doctor Strange, par exemple. Tom Taylor est au scénario, donc c'est peut-être pour ça que je continue à lire celle-ci. David Lopez et David Navarro sont au dessin. Et Nathan Fairburn nous fait la colorisation. Graphiquement, moi j'aime beaucoup le travail de ces deux artistes, je trouve ça sympa, leur manière de dépeindre X-23. C'est plus au niveau scénaristique que ça pêche un peu. X-23 est allé quérir l'aide du Docteur Strange, mon plus grand bonheur, hein, puisque l'autre série que je suis c'est Docteur Strange, donc là ça fait un petit peu un crossover entre les deux. Est allié Kirir Lad du Docteur Strange pour aider ses trois clones. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que X-23 toute seule, c'est cool. Mais alors X-23 multiplié par 4, ça devient assez chiant. Voilà. Elles sont assez chiantes, ces trois clones. Assez insupportables. Elles font un petit peu n'importe quoi. Alors il y a quelques scènes sympas dans cet épisode, comme par exemple l'une des clones qui déconne, qui tire sur un placard chez Doctor Strange, un placard qui soi-disant lui a fait un clin d'œil. On est chez Doctor Strange, hein, donc c'est normal. D'ailleurs c'est une armoire. Et donc de cette armoire sort une espèce d'énorme démon qui vont ensuite aller poursuivre dans la rue et essayer de combattre. Donc la situation part évidemment en sucette et le prochain épisode nous tease au fait un nouveau team-up probable. J'ai l'impression qu'on est vraiment parti pour avoir cette all new Wolverine qui fait un, dans chaque numéro un petit peu un petit team-up avec un autre super-héros Marvel. Mais en tout cas, j'ai hâte que ça se conclue cet arc avec les clones et j'espère que ce sera pas des personnages non plus récurrents parce que je les trouve assez lourdes. Voilà, les trois là.
On a l'impression que le scénariste essaie de refaire un peu Orphan Black, mais version comics, quoi, du coup. Je sais
Ouais,
pas si tu, si tu
c'est vrai
as suivi
qu'il y a
la
ce
série, mais.
côté-là. Ouais, bah si, j'avais commencé. Il y a un petit peu ce côté-là. Puis même dans la manière de dessiner Laura Kinney, bah, enfin, je sais pas, elle pourrait faire penser un peu
À
à ce
l'actrice.
personnage. Ouais, enfin, bon, vite fait, hein, vite fait. Mais en tout cas, elle est dessinée, voilà, d'une manière assez. Je sais pas, enfin, elle a un faciès assez sexy, assez féminin, un truc un peu moins, enfin, un côté un peu moins bestial, quoi. Elle perd vraiment en côté bestial qu'elle avait avec certains auteurs. C'est pas plus mal, hein, tant mieux.
C'est sa
Mais
relation
je...
amoureuse qui fait ça.
ouais.
Oui.
Mais en tout cas, voilà, les trois autres sont. Je suis pas fan quoi de ces personnages. Donc j'espère qu'on va pas les garder comme des boulets jusqu'au bout quoi. Donc c'était sympa mais voilà c'était pas transcendant non plus. Je passais un bon moment sans plus. Donc ce sera un gros check-it. Voilà.
On va continuer, on en parlait tout à l'heure. Uncanny Avengers numéro 5, Bruno.
Je me suis encore trompé.
Oh mais putain!
C'est le 4. Bon, c'est pas grave. Sur
Extraordinaire
les autres,
X-Men?
c'est bien les bons chiffres.
Ouais.
Dans Extraordinary X-Men, c'est bien le 5. Donc Uncanny Avengers numéro 4, Bruno.
C'est un peu mieux que All New All Different Avengers.
Oh là là,
D'une part parce que.
j'ai eu un blanc, je m'inquiète. J'ai eu une
Ah, moi
saute de
aussi.
son. Je
Moi
m'inquiète, j'ai
aussi.
très très peur. Dites-nous sur le
Vous
chat s'il y a du
m'entendez?
décalage. Oui, c'est bon, t'entends, mais dites-nous sur le chat s'il y a du décalage.
Voilà,
Moi
donc
aussi, je l'ai entendu, donc on est
c'est
deux,
un peu
quoi.
mieux qu'All New All Different Avengers. D'une part parce que je trouve que graphiquement, moi j'aime beaucoup Stegman, hein, c'est un auteur qui divise, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très esprit comic book et il y a des scènes d'action qui rentrent bien, les personnages sont badass, sont bien designés. La partie graphique, franchement, je trouve que c'est du solide. Au niveau du scénar, j'étais un peu déçu par cette menace qu'on a dans le premier arc. Donc, je le rappelle, c'est Gary Duggan qui scénarise. En fait, il fait appel à un vilain inhumain qui, voilà, il se prend pour un fervent défenseur de l'écologie et il décide d'exterminer l'humanité avant que l'humanité détruise la nature. J'ai trouvé ça un peu plat et après le lien qu'avait ce vilain avec un membre de l'équipe, j'ai trouvé un peu téléphoné. Ça, c'était appris dans le numéro 2, donc c'est pas
Ah
du
bah
spoil.
j'ai feuilleté et moi je trouvais ça plutôt sympa de
Et
retrouver un personnage qui est en rapport avec une autre série.
ah oui, bah après oui, alors il y avait ça, il y a le fait qu'on a Cable qui apparaît depuis le numéro 3, qui intervient. Donc là, ça a amené une petite touche déjà sympathique, effectivement. Et là, en fait, c'est surtout une fois que l'équipe se forme, on voit que l'équipe fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a une bonne dynamique entre Quicksilver, la Torche. Il y a encore des soucis entre Rogue et cette fameuse synapse qui est cette inhumaine, puisque voilà, les deux s'entendent pas très très bien. Mais pour le reste, on termine avec un roster quand même assez sympathique. Un Deadpool qui est pas trop énervant, qui est quand même bien écrit par Duggan. Donc ça donne du potentiel, surtout vis-à-vis, en fait, c'est ça qui m'a vraiment accroché dans ce numéro, vis-à-vis des deux fils conducteurs qui vont suivre après ce premier arc, parce que là, en fait, on va revenir clairement sur la suite d'Uncanny Avengers, c'est-à-dire que on va avoir la suite des intrigues de Remender. Et ça fait plaisir, parce que c'est des intrigues qui étaient laissées en suspens depuis un petit moment. Voilà, on sait que maintenant ils vont partir dans des missions peut-être un peu plus importantes pour l'univers Marvel. Et alors ces deux dernières pages, je les ai trouvées vraiment cool, parce que c'est un personnage qu'on avait vu disparaître dans des conditions un peu spéciales. Et là on le voit revenir, et ça donne envie de voir ce qui va se passer, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à traiter vis-à-vis de ce qui lui arrive. Donc voilà, il y a plein de super pistes. Donc rien que pour ça, c'est un bail ce numéro, je trouve. Même si l'arc, si on le prend en tant que tel, les quatre numéros étaient un peu poussifs pour amener à la formation de l'équipe.
Mais c'est ça
Donc
le problème, hein.
un
Moi,
petit bail.
franchement, avec les personnages qu'on voit revenir au fur et à mesure des épisodes, ça me donnerait presque envie de redonner sa chance au titre. Mais quand je repense à la lourdeur qu'était le premier épisode, je dirais que j'ai l'impression qu'il a de très bonnes idées, Mais alors, par contre, pour les écrire, c'est laborieux. Donc, ça me donne pas envie de revenir dessus. Voilà.
Je vais quand
C'est
même
dommage.
continuer pour justement ces pistes à la fin du comics. Mais voilà, pour moi c'est un petit bail, ce Uncanny Avengers 4.
D'ailleurs, tu parlais hein, d'histoires qui reviennent, qui dataient d'avant Secret Wars. J'ai oublié de le préciser, mais quelques références ont été faites dans le Black Knight à ce qui s'est passé avant, et notamment une petite aventure qu'il avait eue dans Original Sins.
Ah oui.
Donc c'est la preuve qu'il commence à réintégrer un peu de continuité. Mais comme toujours, Secret Wars étant passé, méfiez-vous, tant que ça n'a pas été certifié, tout est annulé. Prenez-le de ce principe-là.
De toute façon, pourquoi ce serait. Enfin, l'inverse n'a jamais été dit, que tout avait été annulé.
Ben oui, mais en même temps, Secret Wars, tu vois, je veux dire,
Bah d'accord,
d'où
mais.
ça dépendait de comment se
Mitrailleuse.
terminait Secret Wars, en fait.
Voilà, donc partez du principe que tout a été annulé, que la continuité n'est plus réelle, n'est plus la même exactement, et puis jusqu'à ce que ce soit bien certifié, je crois que c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu, quoi. On sait très
Pour le
bien
moment.
qu'avec des events comme ça, ils en profitent pour faire de la rétro-continuité, donc...
Mais de toute façon, c'est. Enfin, comment ce serait même possible parce qu'il y a quand même plein de titres qui découlent de ce qui s'est passé avant Secret Wars, quoi.
Ouais. Non, mais pour moi, c'est la saison 2 du Marvel Now, quoi. Enfin, je vois plus ça comme ça. Il y a eu le season
Moi,
finale,
j'ai
c'était
vraiment pas la
Secret Wars,
sensation
et
que la
puis.
continuité est effacée, quoi, en fait.
Bah, entre la continuité. Non, mais pas complètement effacée, mais en tout cas, voilà.
Elle a été altérée à certains niveaux.
Voilà, c'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui ne compte plus, tant qu'on vous en a
Oui,
pas, tant qu'on vous
il y a
l'a
des
pas
choses qu'on va
mentionné.
découvrir petit à petit. J'ai vraiment pas la sensation d'altération, parce que finalement, on retrouve les personnages
En fait,
tels qu'ils étaient, quoi, avec leurs costumes en plus d'avant Secret Wars. Je veux dire,
L'altération, Steve a raison, c'est plus d'un point de vue multivers. C'est pas au niveau de la Terre qu'on peut plus appeler 616, mais cette Terre-là, elle a été quasi restituée pareil. Mais c'est vrai que le multivers a été beaucoup changé. Et que c'est ça, en fait, qui, pour l'instant, enfin, ça nous laisse des interrogations.
À partir du moment où la Terre 616 a été détruite, même si elle est reconstruite, elle n'aura pas été reconstruite à l'identique. C'est impossible. Donc,
Ah, et pas
clairement,
évident.
il y aura
C'est
forcément des choses qui n'existeront plus.
ce qu'on voit depuis le début du relaunch, je crois. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des nouveaux endroits, il y a des nouveaux personnages.
Ouais, mais
Voilà.
y a plus, il n'y a pas moins. C'est ça que je veux dire.
Oui, c'est ça. Pour l'instant. Mais après, on verra au fur et à mesure.
On va continuer avec Extraordinaire X-Men numéro 5, Bruno.
Oui, cette fois c'est bien le 5 et c'est la fin du premier
Ah,
arc.
on
Alors.
propose hein, deux solutions hein, sur le fait que tu te sois planté sur les titres comme ça, enfin sur les numéros ce soir. Soit tu picoles avant les émissions, soit tu as déjà eu les
Bon,
comics du mois prochain et tu les as déjà lus, d'où ton erreur.
non,
Non, il picole
alors
pendant et après
il se
aussi.
trouve que, il se trouve qu'effectivement, il y a un an ou deux, il y avait une plateforme de Marvel qui permettait de découvrir les comics 2 à 3 semaines avant pour les gens qui travaillaient dans les comic shops. Mais ça a été arrêté au bout de 6 mois parce qu'il y a eu des problèmes, des gens qui ont fait des, il y a eu des fuites.
Bah, on se rappelle hein, de
Bâtard!
certaines grosses fuites hein, du genre le Amazing
Ouais.
Spider-Man, c'était le 600, je crois.
Alors, je
Je
sais
sais
pas
pas
si c'était
sens.
dû à ce site pour les retailers, mais du coup, c'est vrai qu'on n'a plus du tout
Non,
d'avance, à
je crois que
part
c'était le
pour les demandes.
700. Non, c'était le 700, mais il était soi-disant tombé du camion.
Ouais,
C'était
donc
encore mieux,
bon.
ça.
Il y a
C'était
eu
un gars
deux,
dans le
trois, il y a eu
métro,
deux,
en plus,
trois
qui.
scandales comme ça. Hein.
Ouais.
Mais du coup, les comic shops n'ont plus vraiment de copies en avance, à part si elles les demandent explicitement à un scénariste qu'elles connaissent ou un truc comme ça. Mais voilà, donc je n'ai pas lu les comics du mois prochain. Je me suis juste trompé. Et j'ai pas picolé, donc
Non, mais
je suis
non,
juste
ouais,
fatigué.
bah, de toute façon, il n'y avait que deux hypothèses, donc on sait laquelle c'est.
Alors, Extraordinaire X-Men 5, Jeff Lemire, Humberto Ramos, fin du premier arc. Je vais dire un peu la même chose que pour le précédent numéro d'Uncanny Avengers, c'est constitution de l'équipe, fin de la première intrigue où là ils étaient opposés à Sinister, combat assez impressionnant sous les traits de Ramos. Moi j'aime bien Ramos, donc j'ai trouvé ça assez cool entre l'équipe des X-Men et un Cyclope clone mi-mutant, mi-inhumain qui est bien dégueulasse.
Mi-caca.
C'est assez sym c'est sympa à suivre.
J'ai
Voilà. Par
l'impression que c'est
contre,
vite expédié, hein.
mais par
Honnêtement,
contre, c'est très vite
j'ai.
expédié. Et voilà, dès la première page, on voit que ce n'est pas du tout le nouveau statut de Cyclope. À un moment, t'en parlais, Mister Honeybunny. Voilà, c'est une création de Sinister Six.
Oui, mais ça, c'est le coup de théâtre. Enfin, c'est le coup de théâtre. C'est un twist qui est révélé dans ce numéro.
Ouais, dès la première page. Voilà. Donc, pour le reste, voilà, c'est vraiment, ils ont mis 5 numéros pour construire l'équipe. Ils ont amené quelques nouvelles pistes vis-à-vis de peut-être ce qu'ils vont devoir affronter. Mais encore une fois, j'aurais aimé un peu plus. Il y a eu des hauts et des bas. On termine sur une note, je trouve, un peu plus molle pour ce premier arc. Reste l'intégration
Normal,
de
une fois que
Oldman
t'as
Logan.
terminé, c'est toujours un peu plus mou.
Reste l'intégration d'Oldman Logan que je trouve assez bien faite par l'émir. Et du coup, j'ai envie de suivre ses aventures en solo parce qu'il y a ce personnage est intéressant. Donc pour moi, ce numéro, c'est un gros check-it.
Et on va terminer notre partie Marvel enfin.
Oui.
Bruno, toujours le pro
Toujours
du
vaillant.
Marvel, hein, qui en a lu quand même
Vaillant.
1, 2, 3, 4, 5,
Ah, j'en ai lu
6,
beaucoup, hein.
6 Marvel. Et seulement un DC, les gens, vous pouvez le lyncher.
Ouais, non, mais
Mais c'est parce que
attention.
DC ne fait plus les pages de
Les pages de
récap. Les bonnes
récap,
séries.
les pages de récap, ils les ont jamais fait, DC, hein.
Non, mais c'est
Ne
surtout
fait que les
que
bonnes séries.
non, mais c'est surtout que Marvel cette semaine sortait aussi tous ses gros titres en même
Ouais.
temps. Ça
Bah
m'a
oui.
un peu agacé, quoi. Extraordinaire X-Men, Uncanny Avengers,
Ah non, c'est pas tous les gros titres. Attends, il y a des séries comme Iron Man, comme Amazing Spider-Man qui font partie des gros titres.
C'est parce
Non, non,
qu'on
mais
ne
c'est
fait les
qu'avec
ah non,
avec
les
le
gros
double
titres.
shipping, avec les double shipping, tu as des gros titres chaque semaine, quoi.
Alors là, il y avait vraiment trois gros titres d'équipe. D'ailleurs, il vient d'enchaîner les trois gros titres,
Ah
plus Secret Wars. Voilà.
là, j'en
Bon,
remets une
ça...
couche avec les All New X-Men. Donc, de Denis Opless et de Mark Bagley. Là, on va suivre l'équipe des jeunes X-Men venus du passé, qui maintenant sont installés dans le présent et qui essayent tant bien que mal de lutter contre le racisme et de rassembler peut-être des pauvres mutants qui sont en danger.
On n'a jamais lu ça.
Et là, on va découvrir ce qu'il advient du Cyclope jeune, qui avait fait un peu sécession et avait quitté le groupe. Voilà, là, ils sont amenés à affronter un groupe de fanatiques de Cyclope qui se baladent avec le masque du Cyclope sur la tronche et qui sont complètement dépassés par les événements. Là où ce que j'ai bien aimé dans l'écriture de Pless, c'est qu'on a un récit teens dans un contexte d'adultes et on voit que ces jeunes en fait savent pas comment réagir. Et en fait, là, il y a une prise d'otage dans un commissariat qui les jeunes mutants perdent le contrôle justement de cette prise d'otage. Il y a des dissensions dans le groupe des méchants. C'est plutôt bien écrit, c'est assez rythmé. Et j'ai trouvé que voilà, c'était assez original. Reste qu'il n'y a pas énormément de perspective derrière, quoi. Ça, c'est le titre un peu. Voilà, on va suivre les jeunes X-Men. Ils vont essayer de se rassembler. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Il y a peut-être juste la dernière page qui intrigue, mais là, ça me gêne un peu. C'est j'ai l'impression qu'ils font revenir un personnage qui est en train d'halluciner de voir qu'il y a un jeune Cyclope, alors que j'ai l'impression que pourtant ils savaient déjà qu'ils étaient revenus du passé puisque ça datait d'avant Secret Wars. Donc là, je sais pas trop ce qu'il va faire au Plest avec ça, mais. Donc au final, je trouve le numéro dans la veine du Uncanny X-Men numéro 1, peut-être pas aussi mauvais que l'avait dit Steve, mais un moyen check-it.
Ah, moi j'avais trouvé ça nul à chier, hein, perso. Mais le premier.
Bah, moi,
Mais
j'avais pas détesté le premier, mais bon, voilà,
ouais,
il y avait
Steve
des
avait plutôt
choses.
bien aimé d'ailleurs.
Y a pas de scène dans une pizzeria avec le
Oh
BAFF?
non, non, cette scène était quand même franchement ridicule. À qui s'adresse-t-on quand même? À des enfants de 8 ans ou.
Ah, c'était peut-être le numéro 2 alors, parce que ça me dit rien ça. Mais toujours est-il que. Est-ce qu'il est expliqué à un moment donné, enfin, dans l'épisode que tu as chroniqué avant, pourquoi par exemple Sinister n'est pas allé chercher le Cyclope jeune?
Bah en fait il s'est servi dans le patrimoine génétique du Cyclope mort quoi.
Non, mais d'accord, mais puisqu'il est obsédé par Cyclope, enfin je veux dire, il a un Cyclope
Non
jeune
il est
sous la
obsédé. En
main.
fait Sinister son intrigue est intéressante puisqu'elle est liée à essayer de trouver un moyen de lutter contre les Terrigen Mist. Et voilà. Et après lui c'est juste un scientifique qui fait des expériences sur les mutants. Et voilà, y a pas vraiment. Il n'est pas obsédé par Cyclope en lui-même quoi. Il cherche juste à trouver
Bah,
quelque
pendant des
chose.
années, il a été, hein, en tout cas.
Oui, mais là, ils n'en parlent pas. Ils montrent pas trop
D'accord.
le côté
Eh ben, ce serait peut-être bien qu'ils y
fanatique du Cyclope.
reviennent.
Ouais.
C'est quand même quelque chose, voilà, qui a marqué longtemps
Ah, moi, je pensais qu'il s'agissait de ça, en
les histoires
réalité.
mutantes, quoi. Enfin, voilà.
Non, là, c'est pas de Sinister dont je parle à la fin du comics.
Donc tu as dit un bail?
Ouais, non, non, j'ai dit un moyen de check-it.
D'accord. Bon, check-it, quoi. On va passer au TP pour terminer notre partie Marvel et avancer sur la suite du programme. Les sorties TP chez Marvel, il n'y en a pas des masses. D'ailleurs, les sorties TP, il n'y en a pas des masses hein, cette semaine. On va retrouver le Daredevil Epic Collection, le volume, je ne sais plus combien, le volume 13, je crois, quelque chose comme ça, qui s'appelle Touch of Typhoid, qui est donc consacré à Typhoid Mary. C'était l'époque de Anno Senti et John Romita Jr. Au dessin, ça vaut $40. Et ça contient les épisodes 253 à 270, ainsi que le Punisher numéro 10, puisqu'il y avait un petit crossover entre les deux, ou en tout cas, enfin, crossover, une petite histoire qui commençait dans l'un et qui finissait dans l'autre. Ce Daredevil Epic Collection, c'est le volume 13, c'est ça. Voilà, ce petit volume sympathique, c'était une bonne époque, qui était sorti chez Semic, d'ailleurs. Donc ça remonte. Personne ne s'en rappelle. C'est version intégrale.
Non, moi j'ai pas lu cette partie, mais j'ai feuilleté et c'est vrai que c'est du bon Romita Junior.
Ah, Typhoid Mary qui avait bien empoisonné la vie de Daredevil. C'était aussi le moment où il y avait Inferno dedans. On continue avec Deadpool.
Il a affronté Blackers.
Oui, aussi, oui, 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 effectivement.
Moi, je me rappelle de graphiquement ce que ça donnait, mais je les avais pas lus, moi.
Le Blackers de Romita était vraiment super classe quand même. Ah, Black Earth, ouais, pardon, classe. Pas Blackers.
Black Earth. Ouais.
Deadpool flashback série, enfin c'est un volume qui comprend plusieurs petits épisodes, hein, qui des petits moments où Deadpool revient dans le passé, avec notamment donc les épisodes 26, 20. 13, 7, 250, 34 et 40. Voilà, le numéro complémentaire, c'est $20. C'est par Gary Dugan, notamment, et du Phil Noto. Il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du Original Sin, il y a des flashbacks dans les années 60, dans les années 70, où il était avec Power Man, Iron Fist, avec une jolie coupe afro. Dans les années 80, où il est avec Tony Stark, à l'époque, où Tony buvait, etc. etc. C'est vraiment, c'est du Deadpool, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est ça qui est bon. Nous parlons aussi du Masterworks Submariner volume 7 qui est sorti cette semaine, $75, avec les épisodes 50 à 60 de la série Submariner qui date de 1968. C'est du Bill Everett notamment. Enfin, pour accompagner la sortie de la nouvelle série Agents of S.H.I.E.L.D., voici S.H.I.E.L.D., un TPB qui s'appelle Secret History et qui va reprendre tous les épisodes 50e anniversaire de S.H.I.E.L.D. avec notamment Agent Carter, Agent May... rien à voir avec Tante, mais évidemment. Hein. Fury, Mockingbird, Quake, Sergeant Fury and His Howling Commandos numéro 1 de 63, le Battle Scars numéro 6 et du matériel provenant de Strange Tales numéro 135. Ça vaut $30 tout ça. Je ne sais pas si ça sortira en français, s'ils ont prévu de les sortir tous ces 50e anniversaire. En tout cas, voilà, c'est disponible.
Oh, peut-être dans un kiosque, à mon avis.
Ouais, un kiosque en série, un truc comme ça.
Je pense dans un kiosque en série. De toute façon, ils sortent tout en français, hein, théoriquement. Même, même pour combler
quasiment.
Les trous.
On attend toujours la She-Hulk de Charles Soule. Et...
Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ça devait pas sortir en 100% à un moment donné.
Non, ça devait être un kiosque et ça a été annulé. Il y a 2-3 autres trucs comme ça qui ont été annulés aussi.
Ces arbres, quand même. Parce que moi, je pense que ça se vendrait plus que certains trucs qui sortent en kiosque parfois.
C'est con, cette série était magique, quoi.
Ouais, je sais.
David O'Kelley, si tu nous écoutes.
Il y a de quoi faire un super show en plus, sincèrement.
David O'Kelley.
À noter deux petites sorties à $1 des True Believers qui réimprime un épisode. Et c'est du Deadpool hein, pour ces deux sorties de cette semaine. On a True Believers, Détective Deadpool numéro 1 qui va faire un reprint du Câble et Deadpool numéro 13. Et puis le Uncanny Deadpool avec à l'intérieur le Câble et Deadpool 38. Voilà, tous les deux numéros sont à $1 pièce. Les titres m'ont fait marrer en fait.
Il y a deux numéros True Believers qui sort chaque semaine pendant le mois, donc pour $8 vous pouvez vous faire
8 comics,
un certain nombre de comics.
Détective Deadpool, Uncanny Deadpool, enfin voilà, ça marche, il pique tous les superlatifs de tous les autres. On va en profiter maintenant pour faire notre pause musicale. On revient juste après pour la partie indé et la partie DC. On va écouter, on va pas faire un hommage à Alan Rickman, hein, parce que le monsieur n'est pas chanteur, en tout cas pas à ma connaissance. On va écouter...
Bryan Adams, du coup, on va écouter.
Oh non, s'il te plaît. On va écouter un morceau d'un de mes groupes préférés, un morceau de Symphony X, s'appelle Bird Serpent War Cataclysm. On se retrouve juste après pour l'indé et la DC. Et nous sommes de retour pour ce 278e Comics Weekly. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en compagnie de Symphonix. Et si c'est pas le cas, bah tant pis. Voilà. Il n'y a plus personne.
C'est tous barrés. Nous, on n'a pas pu écouter.
On va passer à la suite du programme. Eh ben, tu iras écouter sur Deezer, mec, ça y est.
Bah ouais,
ou
ouais,
sur Spotify. Hein.
C'est ce que je ferai.
On va passer à l'indé, on va parler de Back to the Future numéro 4. Donc cette série de chez IDW qui arrive à la fin de sa mini. C'était une mini en 4 parties. On a 2 petits épisodes comme à chaque fois, enfin un épisode plus long et un petit backup. Le premier est scénarisé par John Barber avec des dessins de Ryan Brown. Et puis le petit backup est scénarisé par Eric Burnham. Enfin en tout cas Bob Gale et Eric Burnham. Et puis un dessin de Eric Evanson. La première partie raconte comment Emmett était en train de reconstruire la machine à voyager dans le temps une fois qu'il était coincé à la fin du 3. En fait, il est en train de construire la machine, le train.
Le train.
Et il hésitait à partir avec Clara puisque Clara n'avait connu que son époque. Voilà un petit peu son dilemme. Et ses enfants lui parlent et ça lui rappelle une histoire avec Marty. Comment Marty et Jennifer se sont mis en couple en quelque sorte. Voilà le principe de l'histoire.
Oh, ben on s'est rencontrés un jour.
Et puis la deuxième histoire raconte comment Doc, quand il est allé dans le futur, a fait fortune. Comment il a pu avoir de l'argent, puisque on le voit bien hein, dans le film, il ouvre cette mallette où il a du fric de toutes les époques. Ben voilà comment il s'est fait son fric. Et je vous laisse découvrir la petite histoire. C'est assez marrant. Voilà, pareil encore une fois, c'est pas un comic qui va changer tout l'univers. Et de toute façon, c'est bien précisé comme d'habitude à chaque première page que ce sont des histoires, des histoires qui n'avaient pas été écrites et puis des timelines alternées, en tout cas alternatives. Alors, à chaque fois, il y a un to be continued qui, certes, peut se rapporter au film, mais il manque des fois quelques petites clés. Et justement, avant l'émission, Bruno, tu m'as appris que finalement, c'était devenu une série régulière, ce Back to the Future.
Eh oui, tout à fait. Ça a été annoncé.
Peut-être pas plus mal, finalement.
Mais alors, du coup, ils vont continuer la numérotation ou ça, c'était une mini-série d'introduction et ils vont faire
non,
une...
Non, ça, ils vont continuer la numérotation. Je vais vérifier, justement, parce que j'ai un doute, mais je crois qu'ils continuent la numérotation.
Alors, dans 5 minutes, ce sera... Alors, c'est une série régulière en 12.
pour Marvel, c'est beaucoup.
Alors déjà, attends. Non, voilà, en fait, c'est la mini-série, elle était en 5.
Ah, en 5 ?
Il reste encore un numéro.
Ah bah écoute, moi je l'ai vu chroniquer partout en 4, donc déjà
parce
c'est
que
bizarre.
Là il y a marqué Back to the Future 5 of 5, c'est pour le numéro 5 qui sort au mois de février.
Moi, en tout cas je vois 4 sur 4 déjà, et dans mon listing je suis en train de regarder, mais je crois que c'est 4 sur 4 aussi, ouais.
Voilà. Et en tout cas après à partir du numéro 6, il y a pu marquer 6 sur je sais pas combien, il y a marqué An all new multi-issue multi-continuum story starts here.
D'accord. Alors, Rubéus, sur le chat, disait au final, pas grand intérêt cette mini. Non, c'est sûr, ça n'a pas un grand intérêt, mais je trouve ça sympa d'avoir quelques histoires supplémentaires dans ce monde de Retour à le futur, qui, de toute façon, on le sait, n'aura pas de suite, ne sera pas plus développé que ça, par un des scénaristes originaux, par Bob Gale, qui supervise mais, tout. Donc, ça ne s'éloignera pas trop.
Retour vers le futur n'aura pas de suite, mais il aura du passé.
Ouais, tant qu'il n'y aura pas de prélogie. Voilà. Bref, en tout cas, bon, je passe un bon moment. Je vais mettre tout juste un check-it parce que voilà, c'est plus le côté nostalgique qui m'intéresse dans cette série que l'histoire en elle-même. Quoi. Enfin, c'est sympa, mais c'est pas absolument indispensable. Bunny, non.
Numéro 3, c'est bien le bon numéro. C'est écrit par Marc Millar avec Raphaël Albuquerque au dessin. Et la série continue de beaucoup me plaire. Alors une série qui, son plus grand défaut, c'est de se lire très rapidement, puisque voilà, Albuquerque fait des très grandes cases. Mais alors, dans ces grandes cases, on a de très très beaux dessins. C'est vraiment super bien. Là, on a un Huck qui, maintenant que son identité a été dévoilée et que le monde entier est au courant qu'il y a un super-héros qui se cachait dans cette ville, eh bien, il va... Il va prendre sa vie en main et il va se mettre à avoir un rôle un peu plus de super-héros planétaire. Et surtout, en fait, il va être un petit peu manipulé par les grands de ce monde, dont un gouverneur qui veut être élu pour devenir président, qui va essayer d'utiliser la popularité de Huck pour que ça lui donne des voix. Ça va pas se passer exactement comme il veut, vous découvrirez dans le comics, mais voilà. Mais le personnage de Huck prend de plus en plus d'épaisseur, et il y a un mystère qui nous avait laissé un peu sur notre faim à la fin du numéro 2, où on avait découvert que Huck avait un frère, eh bien, voilà, ça, cette histoire se poursuit dans ce numéro. Et y a un potentiel, je trouve, d'un point de vue mythologique, avec ce nouveau super-héros qui est assez intéressant. Et voilà, j'ai trouvé que là, encore une fois, il termine son numéro avec un twist, on a envie d'en savoir un peu plus.
Son frère, c'est Batman.
Son frère, c'est Batman, ouais, tout à fait. Et donc voilà.
J'ai rien lu, hein.
Non,
je ne...
non, ce n'est pas Batman. Donc j'aime toujours
Robin.
Autant cette série qui en plus vraiment est sublime. Gros bonus, à la fin, vous aurez les premières pages de Empress, la nouvelle série de Mark Millar et Stuart Immonen, qui elle, je pense, va aussi envoyer du lourd.
Ça voilà, t'a impressionné ou pas?
Ça m'a assez impressionné. Donc voilà, sur un sujet, enfin, je vais pas faire la review des 6 pages de Impress,
yeah.
mais voilà, ça a l'air d'être de la science-fiction fantasy assez cool. Donc,
ah, pas barré.
Ah, c'est pas de la science-fiction assez barré.
C'est un peu barré, mais pas trop, ça va. C'est surtout
un petit peu barré,
c'est très très beau. Et en plus, il y a des bonus de concept art à la fin qui sont assez intéressants. Donc voilà, ce numéro de Huck mérite.
Il y a du concept art sur la preview?
Il y a 6 pages de preview et 4 pages de concept art, quoi. Donc tu as 10 pages de bonus dans ton comics en plus.
Mais le concept art, non, ce que je n'ai pas compris, c'est que le concept art il vient de Huck ou le concept art d'Impress?
Ah non, c'est que du Impress les 10 pages.
D'accord, ok, c'est ce que je voulais savoir. J'étais pas sûr d'avoir bien compris.
Ouais, non, c'était peut-être pas clair. Voilà, donc un bail pour ce Huck numéro 3.
Bunny, tu vas maintenant, roulement de tambour, voilà, je le fais à la bouche rapidement, nous
ah
parler.
Oui, c'était,
oui, c'était de la merde.
C'était une machine à laver en train de tourner très, très vite.
Voilà, je peux taper sur ma table aussi si tu veux. Pour nous parler du 150e numéro de Walking Dead.
Oui.
150 pour cette série de Robert Kirkman, qui aurait cru, quand le numéro 1 est sorti, qu'elle irait jusque-là en fait.
Eh bien, oui, donc Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Godiano, voilà.
Lucille?
Amour et rock'n'roll.
Non, il n'y a pas Lucille dans le 150? Parce qu'on a eu Lucille
pas.
Dans le 100, donc...
Même pas.
Lucille dans le 100, c'est normal, vu comment elle éclate des têtes.
Ouais.
Voilà.
Mais non, mais là, elle est dans un sac, donc on la voit pas.
Bon, dommage.
Mais justement, un numéro 150, je m'attendais à un numéro un peu spécial, où il se passe vraiment quelque chose qui fasse changer le statu quo, même un truc radical. Tu sais, je me dis, allez, ils vont tenter quelque chose, ça va mal tourner, tout le monde va se faire tuer sauf Rick, ou Carl. Il va rester une personne, quoi, de tout le casque qu'on a vu depuis le début, ils vont tous crever.
Ah bah c'est la déception sur le chat, hein, ce 150.
Eh bah, pas du tout, il se passe que dalle. Il se passe tellement peu de choses que un numéro, je sais pas, je dis au pif 136, eh bah peut-être que dans le 136, il se passait peut-être quelque chose de plus impactant, de plus extraordinaire que dans ce numéro 150.
C'est ce que disait Beaumasque, hein. Il disait c'était le scénar d'un 140, pas 150. Grépigeon nous dit on voit rien du tout d'ailleurs dans ce numéro.
C'était un numéro tout à fait normal. Et puis en plus, le pire, c'est que... la décision que prend Rick dans ce numéro, il l'avait déjà prise dans le numéro précédent. En fait, il ne se passe qu'une scène un petit peu choc, qu'une scène assez habituelle dans Walking Dead. Hein. Des gens qui sont pas d'accord, qui se disputent, ça tourne mal. Et puis bon, bah c'est pas en plus des personnages auxquels on était attaché, ni qu'on connaît, ni qu'on connaît bien. Donc ça n'a pas vraiment d'importance ce qui se passe dans ce numéro 150, à tel point que quelqu'un qui lirait Walking Dead régulièrement louperait la lecture de ce 150, il serait pas du tout gêné pour autant. Voilà, c'est vraiment un épisode, tu le lis pas, tu rates pas un truc essentiel, honnêtement, hein. C'est voilà. C'est... Et puis je sais même pas s'il y fait plus de pages que d'habitude, j'ai même pas l'impression.
Il y a eu plusieurs variantes par contre. Mais...
Voilà, ouais, enfin bon, bah, ça, les variantes, après moi les variantes. Mais non, mais enfin voilà, il y a pas grand chose. Oh, il y a juste une petite scène avec Carl, ah, voilà.
Grépigeon nous dit 32 pages au lieu de 21.
Ouais, bah tu vois, je les ai même pas sentis, les pages supplémentaires, tellement je m'attendais à ce que ça décolle, à qui il y a. Qu'il se passe un truc, quoi. Et il se passe rien concrètement. On utilise quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on utilise depuis bien longtemps. Et ce qu'on utilise là, et bah, ça aurait dû être ce qu'on voit dans le 150, quoi. Parce que maintenant, on va pas attendre le 200 pour voir ça, quoi, ce qui nous est teasé. Donc, de toute façon, ça arrivera dans un numéro qui ne sera pas un numéro anniversaire. Et bon, pas grand intérêt, quoi. Donc, franchement, très déçu de ce 150e épisode. On pouvait espérer quelque chose qui n'a pas eu lieu. Voilà, c'est un non-event. C'est voilà. Un non-anniversaire. Donc, un épisode très classique qui ne peut pas mériter plus qu'un check-it, honnêtement.
On va terminer notre partie indé avec Mighty Morphin Power Rangers numéro 0, qui est sorti chez Boom. C'est écrit par Kyle Higgins avec des dessins de Hendry Prasetia. Un petit peu mal à dire son nom. Et c'est un numéro un peu introductif qui va poser des pierres pour la suite du run. On sait que ça va être un ongoing. C'est les Power Rangers. C'est l'époque classique, enfin en tout cas classique. L'époque la plus connue, celle avec les cinq premiers Rangers qui étaient, j'ai oublié leur nom, mais Jason, Kim,
Mike,
il y avait Trini,
Tommy,
et il y avait.
Il n'y avait pas Zach.
Zach et Billy, voilà. Et l'époque où il y a le Ranger vert, donc l'époque Tommy. Le Ranger vert vient de se libérer des griffes de Rita. Alors, c'est vrai que si on ne connaît pas du tout Power Rangers, c'est un peu ardu. Je dois avouer que là, si on n'a pas un minimum de base en Power Rangers, on risque très vite d'être perdu. Cependant...
Tu peux replacer vite fait, en fait, parce que moi j'ai lu et j'ai pas très bien compris, justement. Il s'était fait manipuler par Rita pour tuer les Power Rangers, c'est ça?
C'est ça.
Ou est-ce que c'était de base,
c'était une création,
hein, déjà à la base
c'était une c'était une création. Non, c'était une création qui a été complètement manipulée. Et finalement, voilà, il a réussi à se libérer du joug de
Rita.
Il
n'est pas vraiment humain, de base, donc.
Bah, dans mes souvenirs, non, mais en même temps, j'ai vu ça il y a tellement longtemps que. Voilà. Je suis en train d'essayer de revoir les Power Rangers sur Netflix, mais comme je regarde genre un épisode par mois, je vais mettre du temps.
Ils auraient dû faire des fiches perso, par exemple, pour resituer un petit peu les personnages.
Ah, peut-être dans le numéro 1. Peut-être dans le numéro 1.
Ah oui, ouais, c'est vrai que c'est le numéro 0.
Peut-être ça, ouais.
En même temps, j'ai envie de dire, qui a vraiment envie d'aller découvrir cette licence s'il ne connaît pas déjà un peu Power Rangers?
Bah, on peut connaître un peu,
c'est
avoir
peut-être l'occasion.
2-3 épisodes, mais pas connaître les scénars par cœur, quoi. Genre, j'ai vu 2-3 Power Rangers, mais je savais pas l'histoire du Rangers vert, par exemple. Mais j'ai quand même eu envie de voir ce comics.
Ce qui est marrant, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant dans le comic, c'est qu'on les voit faire des trucs qu'on ne voit jamais dans la série, faute de moyens. Et j'ai trouvé ça super cool. Genre, un Zord qui se détache du Megazord, d'un coup. Pour aller fighter. On voit des batailles de Zord avant qu'ils soient des Megazord. Des petites choses comme ça que le budget ne permet pas dans la série. Et c'est plutôt cool. Ils affrontent un monstre qui est tout droit sorti de Pacific Rim, tellement il est gigantesque.
Ah, c'est ça, ouais. C'est un kaiju.
Voilà, c'est des trucs. On voit un sauvetage de voiture qui tombe d'un pont. Tout ce genre de trucs qu'on n'aurait jamais pu voir dans la série. Du coup, ça prend une dimension un peu plus sérieuse. Et c'est pas pour me déplaire, je dois avouer que c'est pas pour me déplaire du tout. Bruno, pardon.
Non, je veux dire, j'ai vraiment été séduit, moi, par les 12 premières pages, donc la première histoire, celle de Kyle Higgins.
C'est vraiment une mise en bouche, quoi. Hein.
Ouais, et j'ai trouvé le dessinateur très, très efficace. C'est-à-dire qu'il veut donner un ton un peu plus sombre, un peu plus adulte aux Rangers, et ça marche, puisque des personnages qui, quand on les regardait dans la série, étaient assez ridicules, comme Scorpina ou comme la tête dans le bocal là, qui donne des ordres aux Rangers, là. Elle me faisait toujours un peu rigoler, cette tête. Là,
il faut trouver des jeunes courageux et forts.
Alors, et puis les designs des robots aussi est bien fichu. Comme tu dis, ils peuvent se permettre des scènes de destruction qu'on ne pouvait pas avoir dans la série. Voilà, ces 12 premières pages, je les ai trouvées cool. Et j'ai pas très bien compris juste la dernière page et ce que c'était cet objet qui était trouvé.
Ah bah on verra par la suite.
Voilà, c'est ça. Donc il faudra voir dans le numéro 1.
Superbe imitation.
Donc cette première partie, ça m'a bien plu. Voilà. Après, tu vas parler de la suite, mais j'étais.
Oui, oui. Bah,
sur la suite.
Je prends juste deux petites réactions sur le chat. Hein. Rookie99 qui nous dit que Tommy est un humain manipulé par Rita pour poutrer les Rangers. D'accord. Et Rubius Danton nous donne plus de détails en disant que le Sim Ranger est un Ranger de Rita dont elle a piqué le pouvoir à Zordon. Et à l'arrivée de Tommy à Angel Grove, elle le kidnappe, le possède et le lance à l'attaque des 5 autres Rangers.
D'accord.
Voilà. Merci pour ce rafraîchissement.
À un moment donné, il y a un Ranger blanc. C'est le Ranger vert.
C'est Ranger vert qui devient Ranger blanc. Ouais.
D'accord. J'avais un petit peu arrêté à cette période.
La suite est quand même nettement moins bonne. Ce sont les aventures de Skull et Bulk. Donc c'est deux cassos
qui sont là même plusieurs séries d'affilée quoi. Qui survivent même à Power Rangers.
C'est la constante un peu dans Power Rangers quoi.
Ouais. C'est brillante carrière d'acteur hein, pour ces deux-là quand même.
Oh putain les pauvres quoi. Ça c'était franchement une petite aventure soi-disant comique, mais j'ai trouvé ça vraiment chiant. D'ailleurs, je vais en profiter pour donner les crédits pour cette histoire. C'est écrit par Steve Orlando et illustré par Corinne Howell. Et enfin, la dernière partie, écrite par Margaret Scott et illustrée par Daniel Bayliss, où on voit un combat des Rangers face à Goldar. Le pouvoir de l'amour, tout ça.
J'ai compris, face à Goldust.
Non, Goldar. Ouais. Le mec en or avec des ailes là.
Oui, l'espèce de loup-garou avec en armure là.
Ouais, c'est ça.
La troisième histoire était. Ça allait jusqu'à la dernière page où en fait je me dis, ils mettent le The End, ils auraient pu faire une dernière page au moins pour conclure le combat quoi. Parce que ça m'a laissé vraiment sur ma faim.
On sait qu'ils vont gagner quoi. Une fois encore, on voit les ordres agir de manière inhabituelle pour la série télé quoi. Mais sorti de là, c'est pas sans ça. C'est les dessins sont bien moins percutants que la première partie.
Ouais. La première partie est vraiment, vraiment efficace. Heureusement, c'est celle-là qu'on aura dans les...
Oui, c'est Kyle Higgins qui va scénariser la grosse partie. Un épisode sympathique qui met bien l'eau à la bouche. Moi, j'irai voir. Franchement, j'irai voir la série, au moins le premier épisode de Boom. Puis on verra si on continue ensuite ou pas. Mais ça m'a assez intrigué, assez séduit pour que j'aille voir la suite.
Ouais,
ça m'a quand même redonné envie de voir les épisodes pour me remettre tout ça en mémoire.
Pas jusque là, mais en tout cas j'ai trouvé ça assez rigolo et assez séduit par le nouveau dessinateur qui est assez efficace. Et j'ai trouvé les couvertures par contre sont magnifiques. Voilà. Donc c'est un gros check-it.
Lexeran qui nous dit Power Rangers, la série qui fait comprendre aux fans de comics comment se sent le commun des mortels quand on essaie de leur expliquer la continuité Marvel ou DC. pour moi, oui, c'est un bon check-it. Quoi. Le truc, c'est qu'il y a 12 pages de vraiment intéressantes pour le prix d'un numéro normal. Donc effectivement, je ne garderai qu'un check-it, je n'irai pas jusqu'au bail. Et c'est tout pour notre partie indé, d'ailleurs. On va passer au TP de cette semaine. Une petite sélection TP, il n'y a vraiment pas grand-chose. Chez Dark Horse, nous avons Angel and Face Season 9 Library Edition Volume 3. Ça vaut 30$ et ça reprend l'équivalent des TPB 4 et 5 avec un format oversize et un sketchbook un petit peu plus conséquent dans cette version. Voilà, c'est les Library Edition de chez Dark Horse, les versions ultra classieuses. Nous avons aussi Plante vs Zombie Garden Warfare Hardcover à 10$. Avec la mini-série Plantes vs Zombies Garden Warfare numéro 1 à 3. C'est écrit quand même par Paul Tobin, hein, qui aime vraiment Plantes vs Zombies apparemment, parce qu'il les écrit tous.
Arrangé à côté de votre TPB de Doodle Jump.
Ouais. Et c'est pas la même boîte par contre. Doodle Jump, c'est chez Dynamite.
C'est le même genre de licence. Quoi.
En tout cas, donc Paul Tobin, hein, qui écrit aussi Bandette chez Monkey Brain, qui est très très sympa. Et dessiné par Jacob Chabot, qui dessine lui les SpongeBob Comics.
D'accord.
Plutôt, on va dire, pour un plus jeune public. Hein. Nous avons aussi chez IDW Classic G.I. Joe TPB volume 17, écrit par Lariyama, le grand, le seul, l'unique Lariyama. Ça vaut 30$ et ça reprend les épisodes 166 à 175 de G.I. Joe. C'était l'époque où G.I. Joe venait d'arriver chez IDW, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous avez repris la numérotation de la série Marvel. J'espère que je ne dis pas de conneries, sinon corrigez-moi sur le chat avec un fouet et des orties.
Corrigez-le. Il aime ça.
Chez IDW toujours, Dirk Gently, j'ai du mal ce soir. Interconnectedness of All Kings, ça vaut $20, c'est un TPB, c'est écrit par Chris Ryall et Tony Atkins, et c'est l'adaptation du détective qui avait été créé par le créateur du Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams, donc adapté en BD, voilà. Enfin, nous avons Max Maximize volume 5 avec les épisodes 19 à 24 de Max, bien sûr, par Sam Key, c'est qui ressort maintenant, c'est Max, chez IDW, ça vaut $25. Chez Image maintenant, un seul TP vraiment se mettre sous la dent chez Image, Lady Pendragon TP volume 1. C'est du Matt Hawkins, c'est sorti d'ailleurs chez Topco, hein, qui va reprendre donc les deux premiers numéros de Lady Pendragon. Ce bruit de vache, t'es what ? Les deux premiers numéros du premier volume, et ainsi que les numéros 0 à 3 du deuxième volume et la cover gallery. Tout ça donc pour $15. Pour les fans de James Bond, chez Titan Books sort une collection de strips, qui était consacrée à James Bond Spectre.
Oh.
Eh oui. Ah. Dans une version omnibus où tout est collecté, ça vaut donc $40. Et puis enfin, en parlant d'omnibus, nous allons passer chez Valiant avec un gros omnibus qui sort cette semaine, Archer & Armstrong Complete Classic Omnibus. Ça vaut $100 et ça va reprendre tout le Archer & Armstrong ancienne période, hein, donc la période de Valiant premier du nom, avec donc les épisodes 0 à 26 de cette série de 92, le Eternal Warrior 25, le Chaos Effect Omega et le one-shot Archer & Armstrong The Formation of the Sect. Voilà, gros D'accord. TP. Hein. Et puis... Vas-y, Benny.
Non, j'allais dire, si vous voulez, la note de Jonath sur Power Rangers, je pourrais vous la communiquer, mais une fois que tu auras terminé, peut-être, du coup, t'étais
pas sûr. Le dernier TP, c'est Exo Manowar, volume 10, qui sort avec les épisodes 38 à 42. Le volume s'appelle Exodus, toujours par Robert Venditti et Rafa Sandoval au dessin. Ça vaut $15. Et là, j'ai fini.
Oui, alors sa note, il me dit un bail à la Bruno, un bon check-it à la Steve et un gros bail vu la merde chez Marvel. Donc je sais pas comment interpréter tout ça.
J'ai rien compris.
Bah, il a bien aimé Power Rangers. Voilà.
Un bail à la Bruno, un bon check-it à la Steve, donc ça veut dire que Bruno a plutôt tendance à mettre des bails là où toi tu mets des check-it. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour lui, c'est un bon gros bail vu la merde chez Marvel. Voilà.
On va donc terminer avec DC. DC cette semaine qui sort pas mal de titres. En tout cas, j'en ai lu 3 cette semaine, ce qui est un exploit pour moi chez DC en ce moment. Tout était concentré sur cette semaine peut-être. Démarrons avec toi, Mr. René Bunny, qui va nous parler du Batman Superman numéro 28.
Oui, Batman Superman numéro 28 par un certain Tom Taylor. Encore lui, comme c'est étrange. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de lire ce titre. Donc j'ai donné sa chance à ce numéro. D'habitude je lis pas cette série, mais voilà, donc je suis revenu dessus grâce à la présence de cet auteur. Robson Rocca est au dessin avec un entrage de Dexter Vines, de Wade Van Groh Badger, de Norm Rapmund, et c'est tout, et c'est déjà pas mal. 3 encreurs décidément. À chaque fois, il y en a toujours une palanquée. Mais enfin bon, c'est sympa, c'est joli graphiquement. Donc c'est plutôt cool. Alors en fait, il s'agit d'une rencontre entre Batman et Superman d'il y a quelques temps. C'est pas daté, mais on voit par exemple Lobo, nouvelle version, dans ce titre. Donc ça doit être une rencontre quand même assez récente, quoi, avant qu'on ait le Bat Bunny et compagnie, puisque Bruce Wayne est bien Batman, et voilà. Et donc, au début, ça commence par un incident dans l'espace, une cosmonaute qui est heurtée par un objet non identifié assez étrange, Superman qui vient à sa rescousse, et ensuite qui constate que une espèce d'extraterrestre gigantesque est décédé sur la Lune. Voilà.
Ça, effectivement, c'est assez étrange. C'est le Watcher de l'univers Marvel. Putain, le con, il est passé sur la Lune de DC.
C'est ça. On dirait un truc à la Watcher. Donc Superman va aller quérir l'aide de Batman pour lui demander son avis. Voilà, les dialogues sont assez sympas, c'est assez drôle. Il y a un certain second degré dans les relations entre Superman et Batman, avec Alfred notamment. Et puis voilà, un petit mystère autour de cet être. Je vais pas révéler le cliff final, mais ça donne envie d'aller voir la suite. Et puis du coup, la présence effectivement de Lobo. Alors j'ai toujours du mal avec ce nouveau Lobo, qui ressemble plus à un bébé brune qu'à l'espèce de badass motard de l'espace qu'on a connu
Bébé
pendant des
brune.
années. Ouais, franchement, là, avec son espèce de coupe.
Non, c'est étonnant qu'il soit allé le rechercher, ce mec.
Voilà, et puis donc il est. Là aussi, c'est assez drôle, quoi. La scène avec lui ne manque pas d'humour. Il a affaire à quelqu'un qui lui demande un petit service, et les prix proposés par Lobo sont tellement élevés que le gars est obligé de revoir ses. Comment dire, de revoir ses demandes à la baisse. Et voilà, c'est assez drôle. Globalement, j'ai vraiment aimé cette lecture. Là, j'ai trouvé ça plaisant. C'est, ça se laisse lire, c'est cool. C'est le vrai Batman, le vrai Superman. Voilà, un bon petit team-up. Donc, j'irai voir la suite, certainement. Et pour moi, c'est un bail. Voilà, lecture agréable.
On passe à la suite, nouveau titre cette semaine avec Green Lantern Corps, Edge of Oblivion. C'est entre Oblivion et Edge of Tomorrow, donc ils ont fait un mix. Edge of Oblivion. J'ai pris
La renaissance de Green Lantern. La renaissance de Green Lantern.
J'ai pris deux trucs de science-fiction que j'ai mélangés. C'est une mini en 6, c'est écrit. Alors attention, par Don Taylor, qui décidément revient vraiment chez DC. Hein. Et dessiné par Ethan Van Siver, avec une colorisation de Jason Wright. C'est la suite de Green Lantern Corps Lost Army, ou qui s'appelait d'ailleurs, je crois, juste Green Lantern Lost Army, au passage. Et ouais. Donc on a tous des Green Lanterns qu'on a pu suivre dans cette série qui ont retrouvé Mogo, qui sont un petit peu perdus dans cet univers qui, maintenant on le sait, est l'univers qui était avant le nôtre. Donc vraisemblablement l'univers d'où venait Relic. Hein. Un univers qui s'est éteint, un univers qui est mort. Et ils sont toujours coincés là-bas et ils n'ont aucun moyen de... Enfin, pour moi, ils n'ont toujours pas trouvé d'autres moyens pour sortir. Cependant, ils savent qu'il y a d'autres Green Lanterns. Ils n'ont pas tous retrouvé. Donc, idée magique, c'est d'utiliser Mogo pour faire un espèce de gros phare dans la nuit, puisque il n'y a quasiment plus aucune étoile, tout est mort, même si de plus aucune étoile, on voit encore quand même des points dans l'espace, donc je n'ai pas tout compris. Mais voilà, ils font un espèce de gros flash dans la nuit afin d'attirer tous les autres Green Lantern. Et certains de ces lanternes voient la lumière et décident d'essayer de la rejoindre. Cependant, cette lumière attire aussi un autre planétoïde, d'où vont arriver les gardiens, en tout cas, de ce planétoïde, qui sont juste gigantesques, mais qui font 15 fois la taille des Green Lanterns, et qui essayent de leur coller une branlée monumentale. Bon, bien sûr, hein, ça commence toujours comme ça, on se fight, et puis ensuite, on est un peu potes. Et ce sont eux aussi les gardiens de leur dernière ville, qui est répartie sur ce planétoïde, la dernière cité de cet univers encore en vie. Et ils vont devoir faire un petit peu alliance pour essayer de trouver un moyen pour s'échapper. Il y a pas mal de petits trucs que j'ai trouvé très sympas, des petites questions, des petits questionnements qui sont assez logiques. Entre les Green Lanternes, ça discute pas mal sur le fait de doit-on les aider ou pas, et doit-on les faire venir dans notre monde si on arrive à sortir de là ou pas. Parce que on ne sait pas qui ils sont, ils viennent d'un univers qui est mort, est-ce qu'ils ont la même moralité, est-ce qu'ils ont les mêmes codes de conduite, est-ce que c'est pas tous genre des repris de justice ou des gros criminels qui vont foutre le bordel, est-ce qu'ils ont pas aussi des putains de virus qui vont décimer tout l'univers parce qu'on ne sait pas trop quelle maladie ils ont. Voilà, tous ces genres de petits questionnements qu'on a plutôt tendance à oublier d'habitude. Des super-héros voient des gens dans le besoin, ah ton univers mourir, viens dans le mien, il n'y a pas de problème, on t'accueille, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas forcément les réponses à ces questions-là, mais j'ai trouvé malin qu'on se pose la question, en fait. Au moins, il y a une petite logique. Même si cette logique est complètement fucked up juste après, puisque l'espèce d'énorme planétoïde et Mogo sont côte à côte, il n'y a pas de force gravitationnelle. C'est pas un problème. Donc, il y a une certaine logique, mais pas trop. Bon, en même temps, ça reste du comics, voilà, on peut passer là-dessus. Mais ça me fait marrer de voir deux planètes côte à côte sans qu'elles se détruisent l'une l'autre. C'est... Voilà, comme quoi il se passe des choses bizarres dans certains univers. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là. On va tout de suite voir que sur cette nouvelle planète, certaines forces n'ont pas forcément envie que les Green Lanterns les aident, n'ont pas forcément envie que les gens sur cette planète s'en sortent, et il va y avoir un meurtre. Et je ne vais pas en dire plus. Mais franchement, c'était super sympa. Un peu forcé au niveau de la petite bagarre au début, mais elle ne dure que deux pages. C'est vraiment très rapide, et j'ai trouvé ça super sympa. C'est en plus, c'est plutôt joli, et Advance Cyber signe des belles pages. Moi, franchement, j'ai trouvé ça excellent, et j'ai passé un très bon moment avec ce Green Lantern Corps Edge of Oblivion. C'est une mini, ça reste en 6, donc ça ne durera pas très longtemps. J'ai un peu envie de voir le meurtre essayer d'être élucidé, même si j'imagine qu'on ne va pas oublier le fait de devoir sortir de cet univers-là, mais j'espère que l'histoire secondaire qui sera le fil rouge, ce sera sortir de là, et qu'on va avoir des petites histoires comme ça, un petit peu enquête, ou qui essaye de pourrir tout ça, plutôt que vraiment la recherche active d'une solution. Ce serait pour moi plus intéressant, ça sortira un peu plus de l'ordinaire. On verra bien. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment aimé ce Edge of Oblivion, et pour moi, c'est un bon gros bail.
Ah là là, ça a l'air pas mal, et vivement que ça arrive dans les kiosques urbains français.
Toi, t'es un troll, toi. Toi, t'es un troll.
Parce qu'on a appris la disparition du Green Lantern saga, hein, quand même.
Ah bah ça, voilà. Ça, on s'y attendait.
On en parlera lors du Weekly News.
On s'y attendait, on en parlait une fois, je crois que c'était dimanche soir, après le podcast, Benny avec Jonath, on se disait, mais de toute façon, cette série, elle va s'arrêter dans pas longtemps. Ou était-ce jeudi dernier avec Kiwi? J'ai un doute. Voilà. Je sais plus maintenant.
On parlera du relaunch d'Urban lundi.
On va continuer avec des bonnes séries et des bons titres chez DC, parce que oui, il y en a, hein, même si on est mauvaise langue parfois, il y a quand même des bons titres et des bonnes séries. Superman, American Alien numéro 3, Bruno.
Oui, c'est écrit par Max Landis avec au dessin Joel Jones.
Oh putain, Joel Jones au dessin sur du Superman, quoi. Et bon, ok, elle dessine pas le costume, mais putain, ouais. Quoi.
Et c'est une tuerie, comme les deux précédents numéros, Superman American Alien. J'ai adoré, c'est une de mes meilleures lectures cette semaine. Comme quoi, j'aime aussi du DC. Hein, voilà. Donc on continue sur cette thématique où en fait chaque numéro, c'est un moment de la vie de Clark Kent, avant qu'il devienne le Superman qu'on connaît à Metropolis. Et dans ce numéro, en fait, il gagne un concours qui lui permet de partir en voyage en avion. Et ça va mal se passer puisque son avion va s'écraser en plein milieu de la mer. Et il va être sauvé in extremis, il se serait débrouillé un peu tout seul, mais disons qu'il va être sauvé par l'arrivée d'un paquebot, avec à l'intérieur plein de gens friqués qui font la fête, et qui, quand justement Clark Kent monte sur le bateau, tout le monde pense qu'en fait c'est Bruce Wayne qui vient d'arriver à sa fête, qui a été organisée justement sur ce paquebot, en se disant « Oh là là, disons, il a soigné son entrée Bruce Wayne, hein, il nous a fait carrément une simulation d'accident d'avion. »
Moi ce que j'aime quand même, c'est le manque de chance de Clark Kent, qui va gagner un voyage aux Bahamas et en fait se crasher en avion.
Ouais,
le mec
n'a
pas de bol, quoi.
Pas de bol. Et alors là, en fait, du coup, l'histoire, ça va tourner autour du fait que Clark, pendant quelques heures, enfin presque une journée, va se faire passer pour Bruce Wayne auprès de tous ces jeunes qui font la fête et qui sont en train de boire et d'étaler leur richesse. Qui ne connaissent pas Bruce Wayne, juste de nom, et qui savent qu'il a beaucoup d'argent. Et comme ils voient arriver un brin avec assez baraqué, ils se disent ça doit être lui. Et ça va être aussi l'occasion de voir un Clark qui va s'embourracher d'une jeune fille qui est aussi présente sur le bateau. Et comme pour les précédents numéros, c'est très bien écrit, c'est fin, c'est adulte. Et il y a même un peu de super-héroïsme, et c'était assez fun en plus, cette scène super-héroïque. Voilà, avec les dessins de Joel Jones qui sont vraiment très très bons. Il y a une colo qui est un peu flashy, mais ça va bien justement avec le thème de voir un Superman qui fait la fête.
Qui fait l'amour,
ouais.
Si on peut appeler ça faire l'amour, mais en tout cas qui trempe son biscuit, quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est résolument adulte, c'est ça que j'aime bien.
Ouais. Non, c'est du bon comics.
Superman complètement pété.
Ouais, ouais.
Non, c'est franchement, c'était un très bon épisode, encore une fois. Voilà, c'est des. Alors, je sais que, voilà, on rigole avec ce petit mot-là, mais c'est des petites pastilles de la vie de Clark Kent. Et c'est cool. C'est cool. Ouais. On n'a pas besoin de plus. Chaque numéro peut se lire indépendamment. Et voilà, c'est bien. C'est bien des séries anthologiques comme ça. Et je trouve ça beaucoup plus sympa que ce que nous avait fait Grant Morrison sur les débuts de Clark Kent en Superman arrivé à Metropolis.
Pour l'instant, c'est un sans faute. Et je ne sais pas si Max Landis pourrait tenir la cadence sur un titre mensuel Superman proper, mais ça donne envie, quoi. On aurait presque envie de le voir vraiment écrire ce perso, parce qu'il le tient bien.
En fait, le problème, c'est est-ce vraiment du Superman ou est-ce du Clark Kent ? C'est un peu...
Ouais, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à oublier Clark Kent dans les histoires de Superman, et
actuellement,
les deux sont importants.
Oui, oui.
Moi, j'ai essayé cette série et j'ai pas du tout accroché, bizarrement.
Mais pour citer un grand poète de notre temps, tu n'as pas d'âme.
J'ai vraiment pas accroché. Pour moi, c'est pas du Clark Kent, c'est du Peter Parker.
Et alors ?
Je reconnais pas Clark Kent.
Et alors, de toute façon, il n'y a plus de Peter Parker, c'est pas grave. T'en as un comme ça ?
Mais enfin, c'est pas celui-là, quoi. On peut pas remplacer un personnage par un autre. Mais enfin voilà. J'ai pas retrouvé ni Clark Kent ni Superman. Je sais pas. Mais j'ai vraiment pas accroché. Puis graphiquement, alors je trouve ça très pauvre.
Chaque dessinateur est chaque épisode est dessiné par un dessinateur différent.
Hein. En tout cas, là, le dernier,
C'est Joel Jones, c'est magnifique. Arrête.
Ah ouais, j'ai trouvé ça très pauvre, quoi.
Oh putain. Bon. Cet homme n'a pas d'âme. Cet homme n'a pas d'âme.
Va dans l'espace et meurt.
Vraiment. Sans grand intérêt.
À noter, le prochain numéro, ce sera dessiné par Jelly.
Putain, mais là, tu me donnes une érection, mec. Bruno, vas-y, parle-moi encore. Dis-moi que c'est Jelly.
Le tout petit backup d'une page, je l'ai trouvé hyper bien écrit.
Oui, c'était excellent. Ça, c'était un backup excellent.
C'est une page, mais ça te fait réfléchir. C'est bien foutu. C'est excellent. Donc, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Découvrir, faut le lire.
Écrit par Max Landis, c'est dessiné par Mark Buckingham. Colorisé par José Villarrubia. Voilà, juste une page, mais hyper percutante, hyper simple, hyper fun. Je me demande si d'ailleurs on ne reverra pas ce personnage rapidement.
Et un dernier truc aussi, dans la dernière page de cette petite histoire, est-ce que c'est un truc qui va sur lequel il va revenir plus tard ? J'étais un peu curieux. Enfin, j'ai trouvé que c'était malin, mais ça donnait presque envie de voir la suite de cette histoire, en fait, qui concerne Bruce, justement.
Et Gré Pigeon nous a sorti un hashtag anti-Team Bunny, vis-à-vis de tes goûts.
On est d'accord.
Alors, petite info qui est tombée et qui a été reportée sur le chat par Majid qui nous dit que René est mort. René, le mari de Céline.
C'est triste. Hein, c'est...
Et on nous demandait du Céline en hommage, mais non. Non, c'est René qui est décédé, c'est pas Céline, donc voilà.
T'sais, j'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru que tu me disais que Renée Young était morte. T'sais, je me dis, mais ah bon ? Mon dieu. Mais bon, voilà. Les fans de catch comprendront. Mais je ne savais pas du tout. Mais putain, mais il n'y a que des morts en ce moment.
Non, mais c'est hallucinant, René, quoi. 2016, waouh. 2016, ça décapite, quoi.
Il avait quel âge ?
Vieux.
Ah, encore un cancer.
73 ans.
Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Ouais. Effectivement, il y avait quand même une sacrée différence d'âge.
Depuis toujours, enfin on le sait, quoi, qu'il y avait une grosse différence.
Mais on le sait, moi je me suis jamais intéressé à Céline Dion plus que ça, donc voilà. Elle en parlait souvent, mais.
On va terminer avec une dernière review de chez DC, enfin une review conjointe DC et IDW,
puisqu'on
va parler de Batman Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est le deuxième épisode sur 6, hein, c'est une mini en 6, évidemment ça ne peut pas être un ongoing. C'est écrit par James Tanyon Ford avec des dessins de Freddie Williams II, une colorisation de Jeremy Colwell. À la fin du premier épisode, hein, c'était le moment tant attendu, Batman et les tortues qui se font face. Évidemment, comme toujours, c'est le team-up classique. Ils se foutent sur la gueule, avant vraisemblablement d'être potes plus tard, mais en tout cas pour moi, ils se foutent sur la gueule. Hein. Et Batman a vraiment l'avantage, les tortues passent pour des rigolos. Batman les déglingue, mais alors d'une force. Et il faudra l'intervention de Maître Splinter pour arriver à démêler tout ça. Et Michelangelo qui décide de vouer un culte à Batman. Hein. Quand même, il le trouve super awesome, super badass. pendant que Bruce Wayne, lui, va enquêter un petit peu sur qui sont ces tortues et qu'est-ce qu'ils viennent foutre là. Et on va apprendre surtout le problème qu'elles vont avoir en restant dans cette dimension de l'univers DC. Un problème qui risque de les faire s'activer grandement. De son côté, lui, Shredder, a décidé de mettre à mal la population de Gotham, et surtout la population criminelle, puisqu'il tient à sa merci le pingouin. Je ne vais pas en dire plus hein, sur son plan. Et le pingouin qui fait sa petite flippette, c'est assez drôle, finalement, ce petit revirement. C'est logique, hein, c'est tout à fait dans le personnage, mais alors, c'est assez drôle. Par contre, il y a des moments, il y a des problèmes de perspective. Il y a une splash page où on a Shredder, tout le Foot Clan qui débarque derrière, et on a Oscar Cobblepot qui est tombé de peur juste derrière lui, mais il est gigantesque. Enfin, Shredder paraît tout petit alors qu'il est à l'avant-plan. Enfin, des gros problèmes de perspective. Néanmoins, c'est fun à lire. C'est pas renversant, hein, on va pas se le cacher, mais c'est fun à lire. Voilà, et c'est à peu près ce que je m'attendais d'une rencontre entre Batman et les Tortues Ninja. C'est Batman qui est trop badass, qui est trop dark, et puis les Tortues qui foutent un peu le bordel, quoi. Et Michelangelo qui fait des blagues. C'est du classique, mais en même temps, est-ce qu'on avait envie de plus ? Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on avait envie de quelque chose de plus prise de tête, de, je sais pas, il fallait quelque chose qui pète dans tous les sens, et finalement, j'ai ce que je veux, quoi. J'ai ce que j'attendais. Donc, c'est un numéro qui me satisfait. C'est un bon petit check-it. Néanmoins, les dessins... voilà, ça passe... voilà. Il y a des pages vraiment... vraiment limites. Gré Pigeon qui nous dit qu'il se bat comme un détective. Et oui, effectivement, une réplique qui m'a fait bien rire. Enfin, rire. Sourire, en tout cas. Et on va terminer avec les TP de la semaine. Batman, Superman, Wonder Woman, Trinity en édition Deluxe. La version Matt Wagner. C'était une mini-série qui était sortie il y a de ça un petit moment. Ça vaut 29,99, donc $30. Version donc Deluxe avec ses trois épisodes de cette mini-série dessinée et écrite par Matt Wagner. Nous avons aussi la sortie du 6e TP de Flash qui reprend les épisodes 30 à 35, l'Annual 3 et le Future's End pour $17. Et bien sûr, en même temps, comme à son habitude chez DC, la sortie du hardcover du volume suivant, donc le volume 7, avec les épisodes 36 à 40 et le Secret Origin 6 qui est lui donc à $23. C'est du hardcover, c'est un petit peu plus cher. Enfin, Hellblazer en TP. Le volume 12 qui va reprendre les épisodes 121 à 133 et ça vaut $20. Voilà, c'est tout ce que j'avais trouvé dans les TP, le reste sortant déjà en VF, donc ne méritant pas de mention hein, puisque ça arrive assez rapidement. Voilà, et bien c'est tout pour ce 278e Comics Weekly.
Belle émission.
Mais ouais, non mais en plus...
marqué par un... magnifique Secret Wars 9.
Et de mémoire, il n'y a pas de passe hein, dans ce numéro. Hein.
Oui, c'est vrai.
Bon, en même temps, Bruno a fait beaucoup de bails sur Marvel, donc ça vaut, ça vaut des passes.
J'ai pas fait tant de bails.
Ah hein, non, c'est vrai, t'as fait des check-it, donc ça vaut des gros passes.
Bande d'enfoirés.
Ouais, ça, c'est du troll, c'est gratuit. C'est offert par la maison, je te le donne de bon cœur. Voilà, c'est mes étrennes pour toi pour 2016, Bruno.
J'accepte.
Mister Honey Bunny, très enjoué, hein, notamment sur sa lecture de la semaine, le Walking Dead 150, qui était pour lui le turning point de la série, hein, on peut le rappeler.
Totalement, totalement. C'est un petit peu le Watchmen de Walking Dead.
et surtout Mister Honey Bunny qui restera mondialement connu pour son notamment.
Oui, ce notamment de l'amour, ce notamment.
Je
t'encourage fortement à réécouter le début de l'émission, c'était juste épique, quoi. On a vraiment cru un effet de style, un cliffhanger et tout. Du coup, moi j'étais parti pisser, donc le temps que je revienne. Voilà. Et un Bruno décontenancé qui dit mais qu'est-ce qui se passe
C'est bien parce que je vois que tu vas pisser pendant mes reviews, tout est normal.
Je te rappelle que j'ai un casque sans fil donc je peux contrôler l'émission, mais quand j'ai les mains pleines,
ouais,
je peux non, pas venir
ça
tout
fait
de
plaisir
suite.
De savoir.
Ouais. Mais c'est Secret Wars, tu vois, la vessie marche, quoi. C'est voilà. Vaut mieux ça que la boîte à caca.
Oh putain. Non, mais ça, c'est... il y a d'autres reviews aussi dans le programme.
Je ne dirai pas sur lesquelles je suis allé me vider.
Les couilles.
La boîte à caca. Bref, cette émission s'embourbe.
Oui, comme d'habitude.
Absolument. Mais on avait été plutôt sages hein, dans cette émission, donc il était temps de remettre un petit peu les choses. On est sur Comic City, bordel. Il faut des vannes en dessous de la ceinture.
Ouais, bit.
Oui, bit qui n'a pas été prononcé, je crois, hein, de toute l'émission. Donc merci Bruno. On aurait eu un strike hein, par le CSA si on ne le prononçait pas.
Petite pensée à Kiwi, hein. C'est quand même le grand expert. Hein. J'ai l'impression que c'est lui d'ailleurs qui met pas mal d'images en ce moment sur le Facebook de Comic City. Faut peut-être lui enlever son autorisation. Hein. Ça, c'est toujours très porté sur le bas de la ceinture.
Hein. Ah bah tant que c'est sur le bas de la ceinture mais que c'est pas en dessous, c'est bon. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une prochaine dose de review évidemment. Et puis lundi, vous retrouverez le Weekly News. Et dans la semaine, avec une date qui va être déterminée très prochainement, dans la semaine prochaine, normalement, le Comic City Awards, qui sera peut-être le mardi ou le mercredi. On est encore en train de chercher un créneau pour avoir le plus de monde possible. Parce que tout le monde ne peut pas les deux jours, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on vous tient au courant très rapidement, que ce soit sur le Facebook ou sur la page de direct, évidemment. Puis comme d'habitude, hein, justement, le Facebook, puisqu'on en parle, hein, la page, un petit j'aime, voilà, ça fait toujours plaisir. Le Twitter, n'hésitez pas à suivre le Twitter. Et puis, comme d'habitude, le Tipeee, si vous voulez soutenir l'émission. Et puis, n'hésitez pas, je le rappelle hein, de temps en temps, je ne le fais pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à partager cette émission, c'est un moyen aussi de la faire connaître et d'amener un petit peu plus de public, un petit peu plus de visibilité pour le site. N'hésitez pas à faire tourner les liens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou aux gens que vous connaissez. Faites connaître Comic City. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno, merci Mister René Benny.
Mais de rien, ce fut un plaisir. Notamment.
T'as coupé ?
Très très beau, très très beau. Non, non, franchement, là, je lui décerne l'Oscar de la meilleure blague récursive. Voilà. À la semaine prochaine et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien. Puis merci à tous les gens sur le chat hein, ouais. Qui postent comme
vous
des fous.
Vous êtes nombreux, ça fait plaisir.
Et qui parlent et pas que de comics, et c'est ça qui est cool.
J'ai l'impression qu'on a réinventé le caramel moderne.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Allez, ciao.
Allez, réinvente le caramel, Bruno. Ciao.